Sud Radio. Samedi et dimanche, 22h minuit, Louis Bénédit, les aventuriers de l'étrange.
Bonsoir et bienvenue dans Les Aventuriers de l'étrange. Ce soir, le terme de chevalier est plus que jamais approprié au sujet de cette émission. Je vais vous emmener sur les traces du roi Arthur et de ses chevaliers de la Table Ronde. Nous avons tous rêvé un jour de brandir l'épée du roi Arthur, la célèbre Excalibur, ou encore de croiser Merlin l'Enchanteur, ou enfin de s'asseoir autour de la Table Ronde dans le château de Camelot. Qu'est-ce qui est historique? Qu'est-ce qui est de l'ordre de la légende? Existe-t-il des vestiges qui tendraient à prouver qu'il existe un fond de vérité à cette magnifique histoire? C'est ce que nous allons tenter de découvrir dans Les Aventuriers de l'étrange ce soir sur Sud Radio. Avec mon invité Claudine Glo, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes responsable du centre arthurien de la forêt de Brocéliande et auteur de nombreux livres sur le roi Arthur et ses chevaliers. Nous allons avec vous partir sur les traces de cette légende extraordinaire. Vous nous raconterez s'il y a un fond de vérité. Et puis, vous qui nous écoutez, vous le savez, vous pouvez réagir, apporter vos commentaires dès à présent à cette émission, à ce qui va être dit. Vous pouvez nous appeler au 0826 300 300, si vous êtes allé vous promener en terre celte ou encore dans la forêt de Brocéliande, nous dire ce que vous avez ressenti. Vous pouvez également intervenir par SMS, vous tapez sur votre portable Sud, vous laissez un espace, vous rédigez votre texte et vous envoyez le tout au 71 200. Je vous rappelle également que vous pouvez télécharger les archives de toutes les émissions des Aventuriers de l'étrange en intégralité sur le site internet psyland.org, psyland.org, et là vous téléchargez l'émission de votre choix pour l'écouter quand vous le désirez. Enfin, avant que vous ne posiez la question, la musique que vous entendez derrière moi et que l'on va écouter juste après que j'ai parlé, c'est extrait de l'opéra Carmina Burana de Karl Orff, et là l'extrait que nous entendons, c'est le tout dernier morceau de cet opéra qui s'appelle Fortuna Imperatrix Mundi. Savourons-le un petit peu.
Sud Radio, samedi et dimanche, 22h minuit, Louis Bénédit, les aventuriers de l'étrange.
Carmina Burana, ça me rappelle, c'est pour ça qu'avec Mathieu, le réalisateur de cette émission, nous avons choisi ce morceau en introduction de cette émission consacrée au roi Arthur, le fameux film Excalibur. Et il y avait ce morceau d'opéra lorsque le roi Arthur et ses chevaliers chargés. Vous l'avez vu, j'imagine, ce film, Claudine Glo?
Oui, j'ai dû le voir.
Il est vieux, hein?
Il est vieux, et en même temps, il est assez irremplaçable.
C'est vrai.
Il n'y a pas mieux parce qu'il traite tout le sujet. Et moi, j'ai dû le voir 50 fois parce que j'avais organisé une exposition sur le film pour les 20 ans du film.
Ah oui.
Et j'avais eu des objets du film, j'avais eu des armures, j'avais eu le Graal. J'ai eu le Graal pendant un an, Excalibur à la maison. Donc, vous voyez, c'était quand même un souvenir fabuleux, mais cette musique fait toujours le même effet.
Ah oui, 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 complètement. Et alors, à titre anecdotique, l'épée Excalibur, elle était pour le film, c'était du toc ou ils avaient réalisé une vraie épée?
Ah non, tout était vrai. L'épée était vraie, le Graal était un magnifique objet d'orfèvrerie très lourd.
Ouais.
Les armures étaient plus légères parce qu'il fallait quand même que les comédiens puissent bouger dedans.
Bien sûr,
elles étaient en alu, mais ils s'étaient tous entraînés 2 mois à peu près à remuer de façon aisée. Non, c'était un gros morceau, hein, ce film-là, fait avec énormément de passion.
Alors, Claudine Glo, vous connaissez évidemment le mythe arthurien sur le bout des doigts, c'est votre passion. Qu'est-ce qui a fait, pour commencer cette émission, qu'un jour vous vous êtes pris en amour, comme disent les Québécois, pour ce mythe?
Écoutez, je ne sais pas. Je ne sais pas. Moi, je suis du Sud-Ouest. Je suis de la Dordogne. Donc, vous voyez, c'est pas une terre très, oui. très arthurienne au départ.
Pas vraiment, non.
Pas vraiment. J'ai étudié, comme beaucoup de choses, j'ai étudié l'histoire. Ça m'a toujours passionnée. L'histoire et les histoires. J'ai été très intéressée par tout ce qui était croyances. Comment les hommes organisent leurs croyances. Comment ils interprètent le monde. Ça veut dire que ça peut aussi bien être les contes, les légendes que les religions. Mm-hmm. Vous voyez, je ne veux choquer personne en disant ça, mais dans une religion, ce n'est pas le dogme qui m'attire, c'est il y a toujours une histoire fabuleuse. Et c'était ça qui m'intéressait. Et puis, petit à petit, les intérêts se sont canalisés. Et c'est vrai qu'on était, quand on était gosse, on était recrue de mythologie gréco-latine,
oui.
Qui est toujours magnifique, hein, qui m'intéresse toujours beaucoup. Mais le jour où j'ai découvert le monde celte, les légendes celtiques et des particularités, enfin, dont on reparlera sûrement, mais le côté beaucoup plus mouvant, et émouvant des légendes celtiques. Là, j'ai su qu'il y avait quelque chose qui me correspondait complètement.
Oui. Quand vous parlez de particularité des légendes celtiques, ça veut dire qu'elles sont plus humaines, on peut s'y identifier plus facilement. Il y a un côté héroïque, bien sûr, et légendaire, mais il y a un côté également très humain.
Il y a un côté très humain. Et alors, surtout, le je crois qu'on y reviendra beaucoup. Moi, j'y reviendrai beaucoup là-dessus. Ce qui me paraît le plus touchant dans ces légendes, c'est qu'elles ne sont jamais finies et qu'elles ne sont pas ailleurs. Elles ne sont pas dans un autre temps, elles ne sont pas dans une autre dimension. Elles sont juste là et il faut savoir franchir le pas, il faut savoir regarder et on peut passer dans le monde des esprits et les esprits peuvent passer dans notre monde. Mmh. Et ça, je crois que c'est la grande particularité. Et puis on n'a pas cette espèce de majesté un peu écrasante, vous voyez, de Jupiter et ses copains.
Quoi. C'est vrai. Vous dire que la frontière est vraiment très mince hein, entre notre réalité et la réalité des légendes celtiques.
Oui, c'est la vraie particularité des légendes celtiques. C'est ce qu'on appelle, faute d'un autre terme, l'autre monde, qui n'est pas du tout le sens de l'autre monde qu'on a réduit aujourd'hui à ce qui se passe quand on n'est plus là, à ce qui se passe après la mort. Non, cet autre monde-là, c'est toutes les formes du vivant, autre que la nôtre. C'est-à-dire que ça commence à l'âme des animaux, l'âme des arbres, l'âme de la nature, et puis bien entendu tout ce qui est esprit. Esprit, fée, petit peuple, Dieu, est mort aussi, oui. Mais juste parmi les autres.
Oui, c'est vrai, à égalité avec les autres.
Avec les autres, et sans la crainte, si vous voulez, sans la laideur de la mort, sans l'angoisse de la mort. C'est juste un autre état et un autre moment d'une très longue vie.
Alors, pour rentrer comme ça tout doucement dans la légende arthurienne, est-ce que vous pouvez nous en donner la chronologie? Quand est-ce qu'on en entend parler d'abord de cette histoire et quelle a été son évolution au fil du temps?
Alors, on parle vraiment de la légende arthurienne, on va parler du roman arthurien,
ouais.
Ou du roman qu'on appelle aussi le roman breton, étant entendu que breton, ça veut dire des deux Bretagnes, de la Grande, l'île, ouais. Et de la Petite, qu'on appelait l'Armorique. Donc là, on est vraiment dans un processus littéraire. Ce sont les premiers romans qu'on écrit, c'est-à-dire les romans, ces œuvres de fiction qu'on aime toujours lire, eh bien, ce sont les premiers romans qui s'écrivent au XIIe siècle et qui racontent les aventures de Merlin, du roi Arthur et de ses chevaliers. Alors, tout commence vers 1136
oui.
Avec un auteur anglais qui s'appelle Geoffroy de Monmouth, c'est un prêtre, c'est un chanoine, et il écrit, à la demande du roi, l'histoire des rois de Bretagne.
Oui.
Il l'écrit, c'est présenté comme un ouvrage savant. Et la plus grande partie de ce livre est consacrée à un roi extraordinaire, qui est le roi idéal, et dont le règne représente tout ce qu'on peut rêver comme âge d'or. Et ce roi, c'est Arthur. Il a à ses côtés les meilleurs et les plus grands chevaliers du monde.
Mmh.
Sa cour, c'est le lieu de la justice, de la beauté, de l'élégance et de l'espoir.
Mmh.
Et il est conseillé par Merlin.
Oui.
Et ce livre est un best-seller absolu au Moyen-Âge. C'est-à-dire que, vous savez, au Moyen-Âge, on copie les livres.
Bien sûr,
tout,
oui.
Tout est fait à la
Gutenberg
main.
Gutenberg n'était pas encore arrivé.
Non, voilà, et pas mal d'autres choses non plus.
Oui.
Donc, faire copier un livre, beaucoup d'argent, beaucoup de temps quand même.
Bien sûr, oui.
Et des livres très célèbres, on en a 10, on sait qu'il y en a eu 10, 12, 15 copies. Ce livre-là, on en trouve encore les traces de 206 copies.
Ce qui est énorme pour cette
absolument,
époque-là.
Absolument énorme. Et non seulement le livre lui-même connaît un succès qu'on peut qualifier de foudroyant vu les circonstances, mais très très vite, il va déclencher tout un mouvement. C'est-à-dire que ce livre est écrit en latin, ce qui le laisse quand même un petit peu en dehors du circuit du public même cultivé.
Oui,
mais
oui.
Les successeurs de Geoffroy vont le traduire en français, ou du moins dans un des français de l'époque, puisqu'on ne parle pas le même français en Picardie, en Normandie, voilà. Dans le sud-ouest, on parle tout à fait autre chose, bien sûr. On parle la langue d'oc, enfin, on parle l'occitan d'aujourd'hui, mais voilà. Mais tout ça, ce sont des langues romanes, des langues issues du latin, mais qui sont quand même très différentes. Là, nos romans arthuriens sont traduits dans les langues du français du Nord, en gros.
Ouais.
Et le premier à réécrire, et c'est un homme de Jersey, un clerc, encore une fois, qui s'appelle Oas, et lui va augmenter l'histoire, elle est belle, mais il va encore en ajouter, et il ajoute deux choses très très importantes pour nous, qui sont la forêt de Brocéliande, dont ne parlait pas le premier livre, et qui est la table ronde. La table ronde, non pas les chevaliers, mais la table elle-même, le principe de se réunir tous à égalité autour d'une grande table ronde, ce qui n'est absolument pas l'usage des tables de ce moment-là.
Oui. Donc, à cette époque, enfin, je veux dire, quand lui est arrivé et a rajouté sa patte personnelle à ce roman déjà existant, il a rajouté donc ces deux éléments, la table ronde et la forêt de Brocéliande, qui n'étaient pas dans l'original alors.
Qui n'étaient pas dans l'original. Mais alors, là où le mystère, parce qu'il y a comme ça toute une série de petits mystères qui s'ajoutent autour de l'histoire, c'est que on ne sait jamais, pratiquement jamais, quel est le degré d'invention de ces auteurs-là et quel est le degré de transcription d'une tradition orale. Parce que ces histoires viennent des pays celtiques et les pays celtiques avaient une tradition volontaire de transmission par l'oralité.
Oui.
Donc il y avait un énorme trésor de contes, de légendes, plus ou moins bien compris d'ailleurs par ceux qui les racontaient, parce que c'était des histoires très très anciennes, mais qui continuaient à circuler. Alors cette table ronde, il est le premier Oas à en parler, mais ça ne veut pas du tout dire qu'il l'invente. Ça veut peut-être simplement dire qu'il l'a trouvé normal qu'on réintègre la table ronde dans une histoire à laquelle elle appartenait.
Oui, parce qu'elle était déjà dans l'histoire version orale.
Elle était très probablement dans l'histoire version orale, et parce qu'on sait par comparaison avec des histoires du même genre qui se passent en Irlande ou au Pays de Galles, eh bien on sait qu'il y a ce cercle des guerriers celtiques qui se mettaient, au temps des banquets, les plus grands héros se mettaient en cercle autour du roi. Donc on a quand même une espèce de parenté avec...
De similitude,
bien sûr, comme une archéologie, vous voyez, de la table ronde.
Et en ce qui concerne la forêt de Brocéliande, où est-elle située d'abord, géographiquement?
Alors, la forêt de Brocéliande, il a surtout existé depuis, là encore, depuis le XIIe siècle, ce qu'on appelait la Petite Bretagne, donc la nôtre, la Bretagne continentale, l'Armorique. Il existait une forêt dont le nom breton était Brécilian ou Brécilian ou Bréchélian, ça dépend des manuscrits. Et je vous parlais de Oas, 15 ans après Oas, il y a un auteur français qui restait très célèbre, qui s'appelle Chrétien de Troyes.
Ah oui,
Et oui, c'est l'auteur irremplaçable qui se met à écrire lui aussi des romans arthuriens. Lui en français, très très élégant, des romans très bien écrits, qu'on peut pratiquement encore lire d'ailleurs si on fait la traduction en français moderne, mais qui sont articulés comme des histoires avec les ressorts sentimentaux, les sentiments des gens les uns pour les autres, le sens du rebondissement. Et lui, parmi ses romans, il en écrit un qui s'appelle Yvain ou le chevalier au lion. Et son roman, il le place en forêt de Brocéliande. Et là, il emploie le nom de Brocéliande. On en est sûr parce qu'il le fait rimer, ce sont des romans en vers, il le fait rimer avec de la lande, la forêt qui est dans une lande, et elle portait le nom de Brocéliande. Et tout de suite, il reprend ce que nous disait Oas, et qui est très important, c'est que Brocéliande est en Petite-Bretagne, c'est une très grande forêt, et elle a une particularité entre toutes, on y voit des fées. Il s'y passe des choses extraordinaires, c'est une forêt qui a hérité du temps des Celtes, le côté sanctuaire, le côté lieu où on croise les esprits de l'autre monde. Et cette forêt, donc historiquement, cette forêt qui est à l'est de la Bretagne, au sud de Rennes, eh bien, garde pendant tout le Moyen-Âge et jusqu'au XVIIe siècle ce nom. Ce nom de Brécilien, Brocélian, Bréchilien.
Ouais. Et a-t-elle diminué en volume avec, malheureusement, les outrages du temps et surtout ceux de la civilisation?
Eh bien, écoutez, on l'a beaucoup dit, ça. C'est une chose qu'on raconte toujours. Au début, il y avait une très grande forêt. Alors, c'est magnifique parce que on imagine cette espèce de forêt géante, quelque chose comme l'Amazonie chez nous.
Quoi, oui, hein. Oui, en quelque sorte.
Voilà, à peu
oui.
près ouais. Les arbres pluricentenaires. En fait, alors là, l'histoire nous bat un petit peu tout ça en brèche. L'archéologie surtout. Il y a eu des très bonnes recherches, hein, très précises pendant 10 ans. Et la superficie de la forêt, par rapport à l'époque qui précède le Moyen-Âge,
oui.
n'a pas tellement changé. Et non seulement elle n'a pas tellement changé, mais la répartition des clairières et de la partie boisée est restée assez proche. Donc l'image de la forêt qu'on a aujourd'hui, bon, peut-être que les routes sont plus larges ou même qu'elles n'existaient pas du tout,
oui,
mais
oui.
très généralement, on a à peu près, et bien sûr, la même étendue forestière. Et dès le néolithique, donc vous voyez, dès 5000 ans avant nous, hein,
mm-hmm.
il y a 5000 ans, la forêt d'origine était déjà coupée en morceaux.
Ouais.
C'est-à-dire que dès que l'homme s'installe, c'est terrible à dire, mais il n'y a pas de pire prédateur de la nature.
C'est vrai. Mais en même temps, ça veut bien dire aussi qu'elle a, vous nous l'avez dit, et ça a été prouvé par des archéologues, qu'elle a très peu bougé depuis le Moyen-Âge. Donc, ça veut dire que c'est un lieu qui est protégé. Par qui? Par quoi? Ça? Mais il est visiblement bien entouré.
Alors, il a été protégé, déjà, simplement, il a été protégé par sa propre réputation.
Oui.
La forêt, pendant très longtemps, était quelque chose qui faisait peur. Et qui fait peur encore aujourd'hui.
Bien sûr.
Si on pose la question autour de soi, là, nous avions un ami qui s'intéressait aussi à Brocéliande, François Terrasson, qui s'occupait beaucoup de la forêt, de la mm-hmm. nature et du sentiment qu'on
oui.
peut en avoir. Et quand il proposait aux gens, bon, la forêt, ça te fait pas peur, non, tu passes une nuit tout seul en forêt. C'est terrible.
C'est autre chose. Là.
C'est autre chose. Et
ouais.
c'est là qu'on retrouve on se retrouve très primitif, ce qui fait toujours beaucoup de bien, et on perçoit toute cette vibration de la nature, toute cette vie propre du végétal, du sol même, et on perçoit aussi à quel point on est resté un animal, un homme craignant, un homme religieux, dans le sens où on est relié au cosmos
ouais,
autour ouais, de nous.
Oui, ouais, tout à fait. Claudine Glot, une première pause, et on va se retrouver dans quelques minutes pour continuer comme ça à comprendre l'évolution chronologique de cette légende, de ce mythe arthurien qui a vu sa naissance au XIIe siècle, aux alentours de 1136, c'est ce que vous nous avez dit il y a quelques instants, et savoir comment est-ce qu'elle est arrivée jusqu'à nous, et puis surtout se poser la question de pourquoi est-ce que cette légende a perduré jusqu'à nous. Ça veut dire qu'elle a vraiment quelque chose d'universel et de fort qui la garde vivante. À tout de suite.
Sud Radio, samedi et dimanche, 22h minuit, Louis Bénédit, les aventuriers de l'étrange.
Avec le roi Arthur, les chevaliers de la table ronde et bien entendu l'épée extraordinaire du roi Arthur Excalibur. Et mon invité, Claudine Glot, qui est responsable du centre arthurien de la forêt de Brocéliande et auteur de nombreux livres sur le roi Arthur et ses chevaliers. Et d'ailleurs, j'ai entre les mains un livre que vous avez écrit en même temps avec de très belles photos de votre époux Hervé Glot d'ailleurs.
Hein, oui, oui.
Qui est publié aux éditions Apogée, qui s'appelle Brocéliande, tout simplement, on en parlait à l'instant, de très belles photos et de très belles sensations sur la forêt de Brocéliande. Elle est si magique que ça quand on s'y promène?
Oui, enfin, je vais pas vous dire non, moi j'en suis passionnée, ça fait 20 ans que je la sillonne. Non, mais je vois beaucoup de gens aussi qui y viennent.
Oui,
et ce qui est surtout d'assez fascinant, c'est que je peux le dire sans état d'âme, ce n'est pas forcément la forêt la plus belle, si vous voulez.
Oui.
Ça se passe bien ailleurs.
Mm-hmm.
C'est-à-dire qu'il y a un ressenti. D'abord, il y a quand même je pense qu'il y a, on est sur un sol très ancien, le socle armoricain. On est sur un sol qui est très riche en fer. Donc déjà, tout ça, je pense, ça nous met quand même un petit peu en situation de
mm-hmm.
ça donne une réceptivité aux choses. Bon, on est dans un pays réputé quand même pour une certaine humidité, mais c'est aussi la garantie de lumière changeante absolument fabuleuse.
Oui,
c'est-à-dire qu'en quelques heures de promenade, vous pouvez avoir toutes les couleurs, toutes les lumières, et on comprend parfaitement pourquoi on peut sentir s'abolir un petit peu le voile du réel.
Mmh.
Et c'est vrai que quand on aborde ces lieux-là, même si on n'est pas préparé, moi je vous dis, je rencontre beaucoup de visiteurs au château de Compère dont je m'occupe, et c'est vrai qu'ils le formulent plus ou moins bien, mais les trois quarts d'entre eux disent bien qu'ils sentent que là, ils sont sur un lieu différent.
Mmh.
Après, il y a ceux qui sont tout à fait capables de vous expliquer où se passent leurs émotions, et puis ceux qui viennent juste là parce qu'ils en ont besoin tous les ans de replonger dans l'air de Brocéliande.
Oui, oui. Et alors, vous le savez, on reçoit des SMS de nos auditeurs concernant évidemment le sujet, et parmi les SMS qui se réjouissent d'ailleurs de cette émission, il y en a un que je trouve très drôle, c'est pour ça que je vais le lire, qui dit « Cette forêt, il y a des fées, mais aussi des sangliers et Astérix et Obélix. » C'est vrai qu'ils sont armoricains aussi.
Ah, on ne peut plus armoricains. Vous savez, c'est les derniers des derniers, c'est le bastion.
Oui, c'est vraiment.
Et il y a aussi beaucoup de sangliers en forêt de Brocéliande.
Voilà, il y a également Petit Bonhomme, Baba, enfin bref, tous les camps romains retranchés.
Oui,
alors,
oui, oui.
Revenons-en quand même à nos moutons. Alors, il y a donc Christian de Troyes, que vous avez cité.
Oui.
Et là, on est à peu près à quelle période ?
Alors là, on arrive, lui, là, il termine son œuvre vers 1190. Donc, vous voyez, on est toujours dans ce 12e siècle,
mm-hmm.
qui est une période très, très faste, d'ailleurs, hein, en Europe. C'est une période de paix, c'est une période de prospérité, c'est une période de progrès technique aussi,
mm-hmm.
et même relativement de progrès social. Dès qu'il y a prospérité, ça va mieux
oui.
pour tout le monde, hein, de
oui.
toute façon.
Oui, oui.
Et il y a donc, entre autres choses, cet attrait pour ces belles histoires dans une langue compréhensible à tous, qui est le français roman, le roman tout court.
Mmh.
Et Chrétien de Troyes s'inscrit là-dedans. Et Chrétien de Troyes, ce sont les princes qui l'emploient, hein, qui lui font écrire des livres particulièrement élégants et soignés. Mais et le dernier livre qu'un prince lui fait écrire, c'est un conte de Flandre qui règne aussi sur l'Alsace, Philippe d'Alsace, et Philippe d'Alsace lui fait écrire son dernier ouvrage qui est le conte du Graal.
Voilà, j'allais vous demander quand est-ce que le Graal a été, parce que au départ le Graal ne faisait pas partie de l'histoire du roi Arthur.
Non, l'histoire du roi Arthur. J'aime bien cette question-là parce que,
oui.
avant de parler du Graal, l'histoire du roi Arthur, on la voit aujourd'hui de loin, de longtemps après, mm-hmm. donc on la voit comme un ensemble, comme on regarde Les Misérables de Victor Hugo,
oui,
un livre qui
oui.
a été écrit d'un coup. Mais non, imaginez un livre qui met 3 siècles à s'écrire et avec 50 auteurs différents. Et nous, on est au bout.
Oui.
On ramasse tout ça, alors quelquefois on a un petit peu de mal. Et les choses arrivent les unes après les autres. Vous voyez, on a vu arriver Arthur, Merlin, les premiers chevaliers, puis la table ronde, la forêt de Brocéliande. Là, entre-temps, on n'a pas vu, mais je vous en reparlerai, arriver le chevalier Lancelot du Lac, qui est le chevalier modèle, qui est le chevalier que tout le monde connaît.
Ah, oui.
Et,
oui.
et la dernière pièce, le couronnement, et ce qui va donner tout son sens spirituel à toute cette aventure, eh bien, c'est le Graal. Et le Graal, là encore, mystère du Graal, personne n'écrit sur le Graal et le mot ne se rencontre pas avant Chrétien de Troyes.
Est-ce que ça n'est pas, enfin là, c'est soit un coup de génie de cet auteur extraordinaire ou une récupération d'un mythe qui fonctionne bien par l'Église ?
Les deux, mon colonel. Voilà, oui. C'est exactement ça. Un auteur de génie a le génie de récupérer aussi des choses qui fonctionnent très
ouais,
bien.
Bah oui,
non, mais par contre, là où pas les deux, mon colonel, c'est qu'il récupère effectivement, mais il récupère là encore de ces vieux récits qui viennent d'Irlande ou du Pays de Galles. Et si la suite, Chrétien de Troyes meurt sans finir son conte du Graal. Et tout ce qu'on sait, c'est que c'est un mystère. Tout ce qu'on sait, c'est que le Graal, si on le traite mal, va amener le malheur, la déchéance du corps, la déchéance de la terre, la ruine, les femmes seront veuves, les jeunes femmes ne trouveront pas de mari, les hommes mourront, la terre ne donnera plus de fruits ni de fleurs. Que si on pose les bonnes questions et si on traite le Graal comme il doit l'être, tout le bonheur du monde reviendra, le bonheur matériel, le bonheur physique, le bonheur spirituel. Mais Chrétien de Troyes ne nous dit pas ce que c'est que le Graal. La seule indication qu'il donne, c'est qu'il nous dit « c'est une sainte chose ».
Mmh.
Voilà. Et il meurt. Ou du moins, il ne finit pas son roman. Et ça va être toute la suite, tous ses successeurs qui vont s'efforcer de trouver un sens à ce Graal. Et on est dans un siècle quand même très chrétien. Là, il y a, par exemple, chez nous, il n'y a qu'une religion.
Bien sûr, oui.
Il y a des échanges culturels très intenses, hein, avec entre autres avec l'islam, au travers de la médecine, au travers des arts et des sciences,
des mathématiques, par
l'Espagne, et puis bien sûr c'est plus ou moins heureux, mais par les croisades. Donc on connaît ces mondes-là, mais chez nous il y a une religion, c'est le christianisme, et elle est en plein essor. C'est le moment des cathédrales, c'est le moment des grandes abbayes, tout le savoir est entre les mains de l'Église. Donc, quand on cherche que peut être la clé de cet objet aussi merveilleux, on va forcément lui donner un sens religieux. Mais ceux qui lui donnent un sens religieux sont toujours des poètes, des écrivains. Ce ne sont jamais des hommes d'Église.
C'est-à-dire
que l'Église n'adopte pas le Graal. Elle ne le condamne pas, elle ne le connaît pas.
Intéressant, oui.
Très intéressant.
Oui. Ça donne une dimension symbolique et beaucoup plus large finalement au Graal ce simple objet qui aurait recueilli les gouttes de sang du Christ.
Ouais. Et qui aurait été. Alors, c'est-à-dire que à chaque auteur, chacun veut embellir encore la chose. Donc, on vous dit d'abord, c'est la coupe effectivement qui a reçu le sang du Christ. Mais après, on vous dit oui, mais cette coupe, elle était déjà sur la table du dernier repas du Christ, sur la table de la scène. Oui. Et c'est avec cette coupe qu'il a célébré la première messe, la première Eucharistie, la première action de grâce. Donc vous voyez, chaque fois, le Graal s'enfle d'une surenchère d'autres signes. Mais on sent bien qu'il y a autre chose derrière le Graal.
Complètement. Alors, nous allons commencer par le début. Je vais vous demander, maintenant, de prendre vos habits de conteuse, ou presque, pour nous raconter, évidemment, de manière concise. On ne peut pas la raconter, j'imagine, dans tous ces moindres détails, mais parce que là on en aurait pour un petit bout de temps. La légende du roi Arthur. Alors, elle commence par quoi ? La naissance par.
Alors, elle commence par la naissance de Merlin.
Ah voilà.
Voilà. Elle commence en fait par l'entrée en scène de Merlin. Et Merlin, il y a deux Merlins. Il y a un Merlin que nous ont donné les auteurs chrétiens et qui est fils du diable, vous savez, toute cette histoire un peu christianisée. Mais on a surtout, dans la première histoire de Merlin, et c'est ce que je vais vous raconter, on a ce personnage qui est un savant, un devin, un magicien, qui a été un roi et qui a été un guerrier. Et il connaît le secret du monde, et parce qu'il connaît les secrets du monde et l'avenir, il sait que pour le bienfait de la Bretagne, de toute la Bretagne, il doit venir un jour un roi parfait. Mais ce roi, il faut le faire naître. Et ça va être le prodige de Merlin que de faire rencontrer celle qui doit être la mère, parce qu'elle est désignée, et celui qui doit être le père. Le hasard n'existe pas. Mais la dame est déjà mariée et pas avec le monsieur qui doit être le père du roi Arthur. Donc Merlin va faire rencontrer cette duchesse de Cornouailles et le roi Uther Pendragon, Uther à tête de dragon. Et pour que la duchesse ne soit pas émue, ne soit pas inquiète, Merlin par magie va donner à Uther le visage de l'époux de la duchesse. Donc l'enfant,
il va la tromper volontairement
et elle sera à la fois coupable d'adultère et innocente. Donc elle croit que son mari partage sa couche. Or elle apprend le lendemain qu'à l'heure où elle était dans son lit avec son mari se faisait tuer à des dizaines et des dizaines de lieues de là. Donc ce grand mystère s'aggrave quand elle se rend compte qu'elle est enceinte. Et dès que l'enfant naît, eh bien elle voit revenir Merlin. Et entre-temps, elle a, elle, épousé Uther, puisque son mari était mort, elle a épousé Uther, et Merlin revient et dit à Uther, je t'ai bien servi, voici 9 mois, tu m'as promis de me donner ce que je te demanderai, ce que je te demande, c'est ton fils, ce fils qui vient de naître. Uther est là.
C'est dramatique comme situation.
Uther et sa reine, qui s'appelle Graine, ont beau refuser et se débattre, Merlin ne veut rien savoir et Merlin emporte l'enfant. Et il emporte l'enfant dans le nord du pays et pendant 15 ans, cet enfant est élevé sans connaître ses origines. Et puis au bout de 15 ans, le roi Uther est mort, le royaume est sans roi. Et tout le monde se dispute, tous les nobles, tous ceux qui ont quelque pouvoir se disputent pour obtenir le trône. Et pendant ce temps-là, le pays s'en va à la dérive. Donc on décide d'organiser un grand tournoi, en disant au moins on aura le roi, on choisira le plus fort. Ça sera déjà quelque chose, il sera capable de nous défendre.
Oui. Tant qu'à prendre une base, prenons le voilà, plus fort
le,
et puis voilà.
Le minimum, mais au moins ça servira à quelque chose.
Oui.
Donc on organise ce grand tournoi et tous les seigneurs y vont. Tout le monde a le droit de tenter sa chance.
Ouais, ouais,
et
ouais.
Le père adoptif de ce petit garçon qui s'appelle Arthur, qu'on lui a confié voici 15 ans, le père adoptif dit « on va y aller, on va y aller et toi Arthur, tu es trop jeune, tu ne vas pas participer au tournoi, mais mon fils aîné, qui est ton frère de lait, lui, il va y participer.
Ouais. »
Ce garçon s'appelle Kai Kei. Et toi Arthur, tu seras son écuyer. Et tout le monde arrive à Londres, il y a donc... grande effervescence, le tournoi est prêt, mais surtout, dans la nuit, est apparue devant la porte de l'église une pierre. Sur la pierre, une enclume, dans l'enclume, une épée. Sur le socle, une inscription. Celui qui retirera cette épée sera roi par la grâce de Dieu. Et tout le monde, tous les barons, tous les princes, tous les comtes ont essayé de retirer l'épée. Personne n'y est parvenu. Le tournoi commence et Arthur s'aperçoit qu'il a oublié l'épée de son frère.
Aïe.
Panique. Il retourne à l'auberge, l'auberge est fermée, il essaie de trouver une épée, pas un chevalier bien sûr, le lâchera son épée un jour de tournoi, et Arthur, complètement affolé, voit cette épée plantée dans l'enclume, se dit après tout pourquoi pas, tire sur l'épée qui vient dans sa main comme si elle n'attendait que ça. Il se précipite, donc là j'abrège, on le reconnaît bien sûr comme roi, une partie des barons le reconnaissent comme roi, les autres le refusent complètement, on le connaît pas, c'est un gamin, et à ce moment-là Merlin ressort de la forêt. Merlin dit si, vous pouvez l'accepter comme roi, c'est le fils de votre ancien roi. Et là, il va y avoir 2 ans de combat pour le jeune Arthur, aidé par Merlin, et là Merlin va être à ses côtés comme un guerrier, comme un stratège, les armes à la main.
Il va combattre, vraiment, oui.
Merlin va combattre. Merlin veut bien combattre, il ne veut pas tuer d'homme, mais il veut bien mener la bataille.
Mmh.
Et Merlin va combattre jusqu'à ce que le roi Arthur ait récupéré et mis au pas tous ceux qui le refusaient comme roi. À ce moment-là, le royaume est en paix, on entre dans une espèce, ce que je vous dis tout à l'heure, d'âge d'or.
Ouais,
et
ouais.
Arthur décide de se marier. Il a trouvé la prétendante idéale, elle s'appelle Guenièvre, elle est blonde, elle est splendide, elle est royale, elle est courageuse, elle ne recule pas devant la bataille, elle sait le pouvoir des plantes, donc c'est une épouse idéale, sauf que Merlin dit non, celle-là, non, c'est pas possible, l'avenir me dit qu'il ne faut pas l'épouser. Mais Arthur est amoureux, et faites donc entendre raison à quelqu'un qui est très amoureux, roi ou pas roi, ça ne change rien. Il épouse donc Guenièvre.
Contre les conseils
contre les conseils de Merlin, qui sait dès ce moment-là que ses efforts seront un jour anéantis par ce mariage.
Ouais. Alors, Claudine Glot, juste une parenthèse, avant de faire une pause et de continuer à vous écouter, nous raconter de manière concise et succincte, malheureusement, la légende du roi Arthur, est-ce que dans ce livre, enfin dans les livres, il y a une description physique de Merlin l'Enchanteur?
Ça, c'est très difficile parce que un des premiers dons de Merlin l'Enchanteur, c'est de changer de forme.
Oui.
C'est de changer de forme. Il y a alors on a plusieurs descriptions. Mais une chose est certaine, c'est que le Père Noël, le grand barbu,
oui,
avec un grand manteau, une grande robe grise, des étoiles et un chapeau pointu, c'est très récent.
D'accord,
au Moyen-Âge, oui. Merlin n'est pas comme ça. Quand Merlin chevauche, quand Merlin est en guerre, on vous dit, il est grand, noir, enfin noir, bronze, noir de peau, c'est-à-dire bronzé, il a les cheveux noirs et gris, il est maigre et musclé, et il a la force d'un grand guerrier.
Oui, c'est un guerrier, vraiment, un chevalier.
C'est
quoi,
un guerrier, un chevalier. Après, on va vous dire, il reparaît sous une autre forme, c'est un paysan qui chasse les canards.
Ouais.
Après, on va vous dire qu'il reparaît comme un très jeune enfant.
Mmh.
Et il changera de forme comme ça, autant qu'on veut, mais il n'a pas cette forme vieille, décatie, un petit peu...
De grand sage avec la grande barbe blanche,
voilà,
etc.
Voilà, un peu croulant, un peu, je dis Charlemagne, Père Noël.
Oui, oui,
voilà.
Oui, c'est ça, oui. D'accord, donc on a rétabli un petit peu une vérité et recollé peut-être une image plus juste à celle de Merlin l'Enchanteur.
Oui.
Très bien. Claudine Glot, une autre pause. On se retrouve dans quelques minutes pour continuer avec vous à marcher sur les traces du roi Arthur et de ses chevaliers de la Table Ronde.
Sud Radio. Samedi et dimanche, 22h minuit, Louis Bénédit, les aventuriers de l'étrange.
Le roi Arthur, Excalibur, Merlin, les chevaliers Perceval le Gallois, Lancelot du Lac, Camelot, la table ronde, tout autant de noms qui font résonner en nous des images. Nous en parlons ce soir avec une spécialiste, Claudine Glot, qui est auteur de nombreux ouvrages sur le mythe arthurien et qui est également responsable du centre arthurien de la forêt de Brocéliande. Il y a un SMS, Claudine Glot, qui est arrivé au 71-200, qui m'est arrivé là sur l'écran, sous les yeux, qui fait la comparaison entre Gandalf du Seigneur des Anneaux et Merlin l'Enchanteur. Finalement, Tolkien n'est pas allé chercher si loin, le Tolkien, l'auteur du Seigneur des Anneaux.
Non, mais ça justement, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, la preuve que cette légende est toujours vivante, c'est qu'elle continue à inspirer, et des personnages qui sont nourris de la légende, mais qui existent par eux-mêmes, parce que Gandalf, c'est un personnage hyper fort et hyper autonome en même temps.
Oui.
Mais c'est évident que Tolkien connaissait parfaitement, c'était sa spécialité.
Hein, en plus, oui.
Juste, Gandalf est un petit peu à la croisée des légendes nordiques et des légendes celtiques.
Mmh.
Voilà,
ouais.
Mais autrement, c'est un des héritiers de Merlin, absolument.
Ouais. Un autre SMS est arrivé, et c'est vrai qu'on a failli squeezer ce passage, parce que je me suis laissé emporter par votre manière de raconter. Un SMS qui dit « Comment est né Merlin ?»
Alors, Merlin... Là, je vais être un tout petit peu plus technique. On a
Allez-y.
Deux Merlins.
Oui.
Le premier Merlin apparaît en même temps, vous savez, je vous parlais de Geoffroy tout à l'heure. Geoffroy, en même temps que l'histoire des rois de Bretagne, écrit les prophéties de Merlin. Mais il nous parle d'un Merlin comme d'un personnage éternel, qui ne serait pas né et qui ne va pas mourir.
Oui.
Il y a un personnage semi-divin.
Oui.
Mais ce personnage, on l'introduit, on l'accroche à la destinée du roi Arthur. Il devient inséparable de l'aventure arthurienne. Et au début du XIIIe siècle, les auteurs français, entre autres, essaient de rationaliser un peu tout ça, à leur manière.
Mmh.
Un personnage doit être né de quelque part.
Ouais.
Et Merlin est quand même un personnage très étrange. C'est un personnage qui voit le passé, qui voit l'avenir, qui se comporte de manière extrêmement cryptée. Caché, on ne sait jamais pourquoi il se comporte de la façon dont il le fait, mais en définitive, c'est toujours pour un résultat positif, il est du côté du bien, donc les auteurs vont lui inventer une naissance qui justifie tout ça. Ils vont dire, voilà, un jour les diables sont en enfer, et ils se désolent parce que depuis que le Christ est venu, ben, on pardonne aux hommes, et puis voilà, ils vont plus en enfer. Donc, un diable qui se croit plus malin que les autres, c'est le cas de le dire, se dit, on va faire pareil, on va nous aussi faire un fils sur la terre, et ce fils aura pour mission de pousser les hommes vers le mal.
Oui.
Et comme ça, nos chaudrons, là, vont encore être bien pleins. Et ils se disent, oui, ben, on va faire tout pareil, comme Dieu. On va engendrer un fils à une fille de la terre, à une fille des hommes.
Mmh.
Et ils choisissent pour que la chose soit plus infâme, vraiment une jeune fille charmante, pure, très pieuse. Ils lui bousillent toute sa famille, c'est-à-dire que sur les conseils du diable, une de ses sœurs se suicide, enfin, vraiment tout va mal pour elle. Et un soir, elle oublie, avant de se coucher, de faire sa prière, et elle oublie de laisser une petite lumière allumée, vous savez, celle qui, dans les ténèbres, va quand même être la lueur d'espoir et de bien,
oui,
qui va percer la nuit. Et c'est la nuit où un diable vient la visiter. Et le lendemain, elle se rend compte qu'elle n'est pas comme avant. Elle ne sait pas très bien ce qui se passe et elle a un confesseur, un vieux curé qui s'appelle Blaise et qui lui comprend très vite et lui dit « Bon, ça c'est l'œuvre du diable, alors prépare-toi. Pendant 9 mois, tu vas prier plusieurs fois par jour. Tu vas avoir la vie la plus pieuse possible et tu vas, en supplément, boire de l'eau bénite tous les jours. »
Pour essayer d'inverser la tendance, processus. Quoi.
Voilà, et ils arrivent à inverser le processus. C'est-à-dire qu'elle est enceinte, mais elle va accoucher d'un enfant qui, dans un premier temps, est velu et très laid, qui parle dès sa naissance,
oui,
mais qui va se révéler quand même sauvé par toutes ses manœuvres. On le baptise, il perd sa toison, et on se rend compte qu'il a une intelligence extraordinaire. On l'appelle Merlin, mais on se rend compte aussi que son intelligence, ses dons, ses talents, eh bien, il les tient de son père, le diable, mais il va les utiliser pour faire du bien, pour faire le bien, comme le veut le dieu de sa mère.
Oui. Bien vu quand même, hein, comme histoire.
Bien rattrapé. Hein.
Bon scénario.
Oui, ah oui, non, habile, très habile. Mais je crois quand même que je préfère l'autre qui n'a pas de, qui n'a pas d'origine, qui a cette espèce de mystère.
Qui est un esprit, quoi, en quelque sorte incarné.
Voilà, un esprit incarné, exactement.
Oui. Oui. Alors, il y a un SMS qui est assez drôle qui vient d'arriver de Serge qui dit bonsoir, je suis perdu, je ne comprends plus rien. C'est une légende ou une histoire vraie? Là, on est dans la légende pour le moment.
C'est
hein.
une légende.
Voilà, pour
c'est
le moment, mon cher Serge,
oui, oui.
nous sommes dans la légende, rassurez-vous.
Oui, oui, oui,
quoi que ça aurait
légende.
Été bien que, ce, enfin, que ce fût vrai. Mais
quand
bon.
On y croit suffisamment, ça devient une histoire vraie. Hein.
Je suis d'accord avec vous. Alors, nous en sommes donc à la période où Merlin épaule Arthur, le jeune roi qui vient donc de sortir de l'enclume l'épée,
voilà.
Excalibur. Vous nous raconterez également un petit peu l'histoire de cette épée. Qu'est-ce qu'elle a de particulier, cette épée? Pourquoi s'appelle-t-elle Excalibur? On y reviendra tout à l'heure. Donc, il réussit à réunifier son royaume.
Voilà, il réunifie son royaume, il se marie, donc là tout va bien. Mais autour de lui, il y a tous ces guerriers, il y a tous ces barons, tous ces chevaliers qui l'ont aidé et qui d'un coup se trouvent démunis d'espoir, ils n'ont plus rien à faire. Et c'est là que Merlin réintervient et lui dit « Donne-leur quelque chose qui soit propre à eux. Donne-leur d'abord une mission et donne-leur un endroit et donne-leur un honneur. »
Oui.
Que pour eux. Et la mission, ça va être d'aller partout dans le monde porter cette paix arthurienne, cet équilibre, cette harmonie, combattre partout où il est le mal, le noir, l'obscurité, la cruauté du monde.
Là, c'est vraiment l'œuvre du chevalier quand il est adoubé.
C'est l'œuvre du chevalier, qu'il soit de la table ronde ou autre.
Oui,
enfin,
oui,
voilà.
Oui, oui.
Et en même temps, l'autre idée de Merlin, c'est mais donne-leur un endroit où qui sera pour eux seuls, un honneur qui sera pour eux seuls, et c'est la création de la table ronde, qui n'est pas à proprement parler un ordre de chevalerie, en ce sens qu'elle a au bout du compte très peu de rituels. Il n'y a même pas une cape de chevalier de la table ronde. Il y a une cooptation spirituelle, morale, et aussi une cooptation sur le courage physique,
oui,
et
oui,
sur
oui.
l'énergie, et sur le dévouement.
Mm-hmm.
Mais ça n'est pas... Ce n'est pas un ordre, c'est surtout pas un ordre militaire. Et ce n'est pas non plus un ordre religieux.
Oui,
c'est-à-dire
oui,
que
oui.
bien souvent, on a voulu les rapprocher des Templiers. Pas vraiment.
Mm-hmm.
Pas vraiment, d'abord parce que ce sont des individus qui très volontairement souscrivent à un idéal incarné par le roi et incarné par la table ronde elle-même. Mais ils restent des individus et la preuve, c'est qu'ils partent à l'aventure en solitaire, toujours.
Oui.
Et pendant des années, les chevaliers d'Arthur partiront à l'aventure en solitaire et la table ronde s'agrandira encore et encore de tous les valeureux nouveaux jeunes chevaliers. Et c'est comme ça qu'on voit arriver un des derniers, le plus brillant, Lancelot. Lancelot qui arrive de la forêt de Brocéliande, où il a été élevé par une fée,
oui.
la fée Viviane, dame du lac, dont Merlin est amoureux. Et elle l'a élevé, elle a enlevé un enfant humain, un enfant un petit prince, qui était en grand danger de mourir. Elle l'a enlevé, elle l'a élevé dans son palais, qui est un palais caché par les eaux d'un lac. C'est pour ça qu'on l'appelle la dame du lac.
Oui.
Et elle l'amène à la cour d'Arthur en disant c'est le seul endroit digne de lui. Et Lancelot sera l'amant de la reine et le meilleur de tous les chevaliers du monde.
Oui.
Et puis l'histoire continue et tous ces chevaliers sont tout le temps en aventure. Ce sont des êtres mobiles. L'aventure n'attend pas, la quête, le chemin, l'errance sont toujours devant eux et ça serait déchoir, ça serait manquer à leur mission que venir trop longtemps à la cour du roi.
Mmh.
Ils y passent, ils racontent ce qu'ils font et ils repartent.
C'est en quelque sorte, c'est peut-être pour ça que c'est universel finalement, chacun suit son propre chemin initiatique.
Chacun suit son... Il y a un minimum commun, il y a un code moral,
ouais.
il y a un ensemble de
ouais.
valeurs. Il y a une reconnaissance mutuelle. Mais après, oui, chacun... Et d'ailleurs, l'aventure en elle-même est vécue et comme une initiation et comme une grâce. Parce que la première chose que souhaite un chevalier, c'est de trouver de belles aventures sur son chemin. S'il n'en trouve pas, ça veut dire qu'il n'a pas de destin. Il n'a rien à faire dans ce monde. Et ça veut dire que non seulement il n'a rien à faire dans ce monde, mais que les puissances de l'autre monde ne l'ont pas choisi. Parce que ce qui se passe dans ce monde est bien entendu guidé par l'autre, par celui qui est derrière. Et le chevalier qui part comme ça des mois et des mois et qui n'arrive rien, ça veut dire qu'il n'a aucune valeur, qu'il faut encore qu'il la gagne. et que même un dragon à abattre, même un tyran à détrôner, ce qui est dangereux et ce qui est risqué, c'est tout ce qu'il faut rêver d'avoir, que si on n'a pas tout ça, eh bien, on est un être de petite valeur. Et c'est... on n'est pas utile à son monde.
C'est très romanesque, hein, et c'est très initiatique en même temps.
Très, ah oui, oui. De... c'est ça qui est beau dans cette légende, c'est qu'on peut le lire comme un roman d'aventure, et après on peut rentrer dans toutes les couches plus profondes et plus initiatiques.
Oui, oui, oui. Alors, venons-en à, parce que, il y a une apogée, évidemment, c'est celle que vous êtes, c'est la période que vous êtes en train de nous décrire.
Voilà.
Et ensuite, il y a le début du déclin.
Alors, le début du déclin, il va se manifester, enfin, le tout début de ce qui sera le déclin, va se manifester quand arrive à la cour un jeune chevalier qui vient du pays de Galles et qui s'appelle Perceval. Enfin, un jeune chevalier, non, un jeune écuyer. Il n'est pas encore chevalier. Il est innocent. Une innocence qui frise l'imbécilité, d'ailleurs. Il croit tout ce qu'on lui dit. Il n'a aucun recul. Et il arrive parce qu'il a vu des chevaliers dans la forêt. Il les a trouvés tellement beaux qu'il les a pris pour des anges. Les chevaliers lui ont dit « Non, non, nous sommes des chevaliers du roi Arthur ». Et comme tous les enfants, il a dit « C'est ça que je veux faire ». Et il les a suivis pour devenir chevalier. Donc, on lui apprend la chevalerie, les codes d'honneur, on lui apprend à se battre, à monter à cheval, et quelque chose qui est très important et qui est propre à la table ronde, le code de la courtoisie. Comment se comporter dans le monde, pas seulement avec les dames, mais dans le monde en général, avec élégance, mesure, retenue, attention à l'autre, beauté. Et Perceval arrive quand même à être adoubé, et Perceval entre à la table ronde. Et comme tous ses pères, comme tous ses compagnons, il doit s'en aller à l'aventure. Et il s'en va. Et c'est au hasard de sa première aventure qu'il arrive un soir dans un pays extrêmement désolé, ravagé, pauvre, desséché. Et là, il trouve sur un petit étang un roi, invalide, dans une petite barque, est en train de pêcher. Et le roi lui dit, mais certes mon pays est pauvre, mais je t'invite quand même ce soir, tu passeras la nuit dans mon château. Perceval dit, je n'ai pas vu de château. Et le roi lui dit, retourne-toi, tu vois les rochers en face de toi, monte sur la crête et appelle très fort, et le château apparaîtra. Et Perceval obéit. Et bien sûr, ce château est un château fantasmagorique, féerique, merveilleux.
Oui.
Et Perceval est accueilli dans ce château. D'entrée de jeu, on lui offre une épée en lui disant « Elle a été portée pour vous. » Il la reçoit avec étonnement. Et le repas arrive. Perceval est assis à côté du roi dans une grande salle très profonde. Il mange, bien d'ailleurs. Et au fond de la salle, tout d'un coup, passe un cortège suffocant de beauté. Des jeunes gens qui portent de grands chandeliers ruisselants de lumière, beaucoup de bougies. Puis un jeune homme qui tient une lance d'argent. Et cette lance saigne. C'est-à-dire qu'en haut de la lance, une goutte de sang qui tombe. Et une autre goutte qui tombe. Et derrière, une jeune fille qui porte un plat avec un couteau. Et puis une autre jeune fille qui porte le Graal. Et tous sont beaux et tous sont bien parés. Et encore en arrière, deux autres jeunes gens portent à nouveau des chandeliers comme des forêts de lumière. Et le cortège passe une fois, deux fois, trois fois. Et chaque fois, Perceval le regarde avec des yeux éblouis, mais il se rappelle bien que quand on lui a dit « voilà, tu peux partir dans le monde, mais apprends à bien te conduire et surtout ne parle pas à tort et à travers et ne pose pas de questions indiscrètes. » Et le roi, ne parlant pas du cortège qui leur passe devant les yeux, Perceval n'ose pas parler. Et le soir finit de tomber, il va se coucher, et quand il se réveille le lendemain, le château est vide, il n'y a plus rien, plus de roi, plus de serviteurs, plus de jeunes filles, plus rien. Perceval sort du château, le pont-levis claque derrière lui, et ce n'est que quelque temps après qu'il apprendra, par une jeune fille qui est sa cousine et qu'il rencontre au bord de la route, qu'en ne posant pas la question « qu'est-ce que c'est que ce Graal et à quoi sert-il ?» eh bien, il a condamné tout le pays au pire malheur. Et il jure à ce moment-là de ne plus s'arrêter deux nuits de suite dans le même château avant d'avoir retrouvé le Graal, posé la question et rendu le bonheur à tout ce pays qu'il a condamné au drame.
Il avait le Graal à portée de main.
Et il n'a pas compris.
La lance du Christ, le Graal. Ouais.
Il n'a rien vu, il n'a rien compris, il n'était pas prêt.
Ouais.
Son cheminement n'était pas fait. Et Perceval raconte cette histoire à la cour du roi Arthur. Et tout, il y a un grand enthousiasme pour cette cause si belle, et les chevaliers se jurent, eux aussi, de partir à la quête du Graal. Et là, on va avoir une infinie variété d'aventures, parce que la quête du Graal est tout sauf rectiligne.
Mmh.
Et sur le chemin d'une aventure, le chevalier a un devoir, ne jamais rien refuser. C'est-à-dire que c'est le contraire d'aujourd'hui. Aujourd'hui, vous avez une mission et vous y allez droit.
Ouais.
Et vous ne regardez pas sur les côtés.
Ouais.
Là, non, vous ne pouvez rien refuser de ce qui se présente à vous. Et toute personne qui vous demande de l'aide sur le chemin de votre aventure personnelle, vous ne pouvez pas, vous n'avez pas le droit de la laisser comme ça. Donc vous partez pour, dans l'espoir de trouver le Graal, et pendant 2 ans, 3 ans peut-être, vous allez passer d'une aventure à l'autre, espérant quand même vous rapprocher du chemin du talisman merveilleux.
Mmh.
Et en définitive, ce n'est pas Perceval qui finira par trouver le Graal.
Ah, je croyais que c'était lui, que c'était Perceval qui...
Eh oui, c'est Perceval et ce n'est pas Perceval. Parce que là encore, on est, pour le monsieur du SMS de tout à l'heure, là,
oui.
on est dans des livres. On est dans des livres et des livres qui ont beaucoup d'auteurs. Donc là, on a une divergence. On a certains auteurs qui vous disent si c'est Perceval qui est allé jusqu'au bout. Il a épousé la belle Blanchefleur et il est devenu roi du Graal et elle, reine du Graal.
Mmh.
Et ça, c'est l'histoire que raconte un poète allemand qui adapte Perceval Parsifal en Parsifal,
oui. Mmh.
Et qui va lui finir l'histoire, ce que n'avait pas fait Chrétien de Troyes. Mais en France, d'autres auteurs vont reprendre la suite et ce sont eux qui vont amener les notions de coupe et de lance du Christ. Ce sont eux qui vont expliquer toute la symbolique du conte du Graal par une symbolique chrétienne.
Mmh.
Et à ce moment-là, eh bien Perceval, qui est quand même un jeune homme qui s'intéresse aux femmes, un jeune homme qui n'est pas parfait, eh bien ne peut plus être digne de trouver ces objets-là. Il est trop charnel, il est trop humain. Donc les auteurs vont fabriquer un chevalier sur mesure. Un chevalier qui va avoir toutes les qualités du meilleur chevalier du monde et qui aura la qualité ultime dans une optique chrétienne, c'est qu'en plus, il sera chaste.
Oui.
Et oui, évidemment. Ça paraît pas une grande chose aujourd'hui, mais...
Oui.
Mais...
si, si.
Et alors, on va donc... Le meilleur chevalier du monde, c'est Lancelot du Lac. Mais Lancelot du Lac est d'avance disqualifié parce qu'il aime d'un amour adultère la femme du roi.
Voilà. Une pause, Claudine Glot, et après cette pause, vous nous raconterez la fin du roi Arthur, parce que le roi Arthur est mort, et on parlera d'Excalibur, cette épée mythique qu'il a brandie durant tout son règne, et savoir ce qu'elle est devenue. Vous pouvez continuer à nous envoyer des SMS, bien sûr, vous êtes nombreux à le faire, au 71 200, vous tapez Sud sur votre portable, vous laissez un espace, vous rédigez votre texte, votre commentaire, et vous l'envoyez au 71 200. Aussi, vous voulez poser des questions directement à l'antenne à mon invité Claudine Glot, et bien vous appelez au 0826 300 300.
Sud Radio, samedi et dimanche 22h minuit, Louis Bénédit, les aventuriers de l'étrange.
Et en ce qui concerne l'émission Mêle-toi de l'info avec Philippe Sage et Éric Champin, je vous rappelle que demain, lundi, ils recevront non pas le roi Arthur, mais François Bayrou. Revenons au roi Arthur et les chevaliers de la table ronde qui est au centre du sujet des aventuriers de l'étrange ce soir avec mon invité Claudine Glot, qui est responsable du centre arthurien de la forêt de Brocéliande. Nous en étions au moment où, eh bien, on l'a saisi à cause de Perceval le Gallois, le dernier arrivé chevalier de la table ronde, eh bien le royaume d'Arthur va être plongé dans les affres du déclin. Il va partir évidemment et jurer de retrouver le Graal. Mais comment meurt le roi Arthur? Quelle est sa fin, ce roi mythique?
Oui, alors après.
Et
la...
Merlin dans tout ça, parce que là il est étonnamment absent. Finalement.
Alors Merlin est absent dès l'instant où le roi, où il a mis en route ce qu'il faut, où le roi est couronné,
oui.
Où la table ronde est créée, où l'aventure du Graal est lancée, Merlin se retire. Merlin se retire en forêt de Brocéliande. Mmh. Il rejoint Viviane, la dame du lac, oui. Dont il est amoureux, et il en est assez amoureux pour lui donner la formule magique qui va lui permettre à elle d'enfermer Merlin à jamais dans la forêt. Donc le roi se retrouve avec ses chevaliers partis à la quête du Graal et son conseiller, son vieil ami, parti aussi. Donc c'est un moment de solitude qui n'aura plus de fin pour lui. Et quand les chevaliers vont revenir de la quête du Graal, eh bien, ils reviendront dans l'amertume et la déception parce qu'il n'y en a qu'un qui aura trouvé le Graal, que beaucoup auront disparu. Et c'est à ce moment-là que l'amour de Lancelot pour Guenièvre leur apparaîtra comme une des raisons de la décadence et de la chute. Ils vont détester cette passion qu'ils avaient tolérée jusque-là. Et on voit enfin arriver le dernier venu de l'aventure, le neveu. Alors certains textes disent le fils d'Arthur, d'autres disent son neveu, c'est Mordred. Et Mordred, c'est le mal incarné qui vient, le traître, le mauvais, qui vient demander, il veut prendre le royaume, et le roi se dit que quel que soit le degré de délabrement de la table ronde, il ne peut pas laisser le royaume à Mordred, là ça serait terrible. Et il y aura une dernière bataille entre les chevaliers que Mordred a réussi à détourner, et ceux qui malgré tout sont fidèles au roi Arthur.
Oui.
Et c'est cette espèce d'immense bataille qui est un petit peu comme un crépuscule des dieux où se solde toute la fin de la table ronde. Ils sont tous sur le terrain et tous vont mourir, sauf deux. Tous vont mourir, sauf deux, c'est-à-dire que tous les chevaliers gisent morts sur le sol, un carnage immense. Il reste le roi Arthur, son écuyer et Mordred. Le père et le fils, ou l'oncle et le neveu, au choix. S'entretue, ou plutôt Arthur tue Mordred et Mordred blesse mortellement Arthur. Et à ce moment-là, le roi Arthur demande à son écuyer de bien vouloir aller jeter l'épée Excalibur dans un lac. Le lac le plus proche, l'eau la plus proche, va et jette l'épée. L'écuyer, à trois reprises, refuse de jeter l'épée, ment au roi, et chaque fois le roi lui dit: tu me promets que tu as jeté l'épée? L'écuyer répond oui. Qu'as-tu vu? Demande le roi. Rien, répond l'écuyer. Et le roi renvoie l'écuyer jeter l'épée. Et quand enfin le jeune homme obéit, il lance l'épée très loin et c'est là qu'il voit sortir de l'eau la main de la dame du lac qui s'empare de l'épée, qui la tient un instant dans le soleil couchant et qui l'entraîne sous les eaux. Excalibur, l'épée merveilleuse, était confiée au roi le temps de son règne et elle repart aussi mystérieusement qu'elle était venue dans l'autre monde, dans le monde des esprits, attendre le retour du roi. Parce que le roi était mortellement blessé, mais quand l'écuyer revient vers le roi, il s'aperçoit que, au loin sur la mer, puisque la bataille s'est terminée pas loin de la mer, il s'aperçoit qu'au loin sur la mer arrive un bateau, la nef des fées, et qu'à bord de ce bateau, il y a la demi-sœur d'Arthur, la fée Morgane, il y a une autre dame du lac, et il y a la mère d'Arthur, vous savez, cette Ygraine qui avait disparu très rapidement au début de l'histoire. Et elles sont là toutes les trois, et elles viennent chercher le roi. Et le roi mourant, quand il voit arriver le navire, se redresse, et a la force de monter sur ce bateau. Et ce bateau l'emporte dans le royaume de Morgane la fée, dans l'île d'Avalon, où, dit-on, il dort d'un sommeil miraculeux, d'un sommeil féerique, mais un sommeil dont il se réveillera un jour. Ce jour-là, il reviendra.
Pour sauver l'Angleterre.
Pour sauver les Bretons.
Oui, les Bretons.
Ces Bretons. Et ce jour-là, Excalibur lui sera rendu. Et c'est comme ça que l'histoire finit et ne finit pas.
Comme Merlin, l'histoire est finie, mais elle ne finit pas non plus.
Non,
il est toujours quelque part dans la forêt de Brocéliande.
Dans la forêt de Brocéliande, endormi ou sous une autre forme, incapable de sortir de la forêt. Mais il n'y a qu'une version, qu'un roman qui le tue. Tous les autres romans sont bien d'accord, il est enfermé. Il s'est fait retirer du monde.
Il a donné
les clés à Viviane pour qu'elle l'enferme.
Oui. C'est très beau, très étonnant. Claudine Glot, dites-nous-en un petit peu plus sur cette épée extraordinaire, Excalibur.
Oui, alors Excalibur, c'est Bourman là dans le film avait un terme très juste, c'est l'épée de la puissance. Et c'est vrai que l'épée, là on va retrouver aussi toutes les symboliques de l'épée, qui est une arme et beaucoup plus. Et là, le roman arthurien est, Il y a beaucoup d'épées magiques. Il y a beaucoup d'épées magiques et le roi Arthur lui-même a plusieurs épées qui toutes ont une touche merveilleuse.
Une capacité particulière.
Une capacité chacune, particulière. Ouais. Mais évidemment, Excalibur est au-dessus de toutes parce qu'Excalibur, et ça le roi le sait et Merlin le sait, Excalibur ce n'est pas une épée dont on s'empare, c'est une épée qui veut bien accepter de se laisser prendre. Et non seulement Excalibur accepte de se laisser prendre, mais on pense toujours à Excalibur qu'on prend comme ça dans la main. Mais il faut bien penser que si Excalibur vient dans la main de celui pour qui elle est faite, c'est parce que l'enclume, ou dans d'autres versions le rocher, la laisse sortir. Et là, on touche à une espèce de symbolisme très ancien du roi élu, du roi désigné, non pas pour exercer le pouvoir, mais parce qu'il est là comme un intercesseur entre les pouvoirs surnaturels, la terre et les hommes. Il est celui qui doit tout faire bien aller ensemble. Et quand l'épée sort du sol, sort du rocher qui la tient, ça veut dire que le roi a été reconnu par la terre sur laquelle il va régner comme étant le bon roi. Et ça nous en renvoie à une histoire qui est celtique elle aussi et qui est sans doute la préfiguration de ce test roi de royauté qui est Excalibur. En Irlande, les rois étaient élus par les tribus, par les hommes libres des tribus. Mais une fois que le roi était élu, on l'amenait sur la colline sacrée de Tara. Et sur la colline sacrée de Tara, il y avait une pierre. Et le roi devait poser son pied sur cette pierre. Et si le roi était le bon roi, celui qui convenait au pays, la pierre criait. La pierre poussait un cri pour approuver le choix du roi. Si le roi n'était pas approuvé par la pierre, on élisait un autre roi. Et là, vous voyez, on n'a même pas besoin de l'épée dans l'histoire irlandaise. L'épée, elle vient en plus parce qu'elle a une symbolique forte. Parce qu'un roi chevalier ne peut pas se passer d'une épée. Mais l'important, encore plus que l'épée peut-être, c'est le fait que le sol laisse venir l'épée.
Oui.
Et cette épée, elle est un test, elle est un gage, et elle doit revenir à cet autre monde auquel elle appartient. Et il y a une autre version qui est très très belle, une version un peu plus tardive de la légende, mais médiévale aussi, qui dit voilà, Arthur retire l'épée de l'enclume, mais c'est une épée qui est juste là pour prouver qu'il est le bon roi. Donc là, on revient à ce que je vous disais, il faut qu'elle vienne cette épée, qu'on la laisse sortir.
Oui.
Mais il se bat pendant quelque temps avec, et puis il part à l'aventure, il y a un affreux géant qui est en train de commettre 1000 méfaits, donc le roi part se battre, et Merlin lui dit, tu n'es pas prêt, ne va pas te battre, le roi veut y aller quand même, c'est tout à son honneur. Et évidemment, il manque se faire tuer par ce géant, et ce géant lui brise son épée. Et quand il se réveille de ses blessures, Arthur dit à Merlin, oui, je suis toujours vivant, mais je n'ai plus d'épée. Et Merlin lui dit, ça n'a pas d'importance, tu as fait tes preuves, maintenant tu peux venir, il y a une seule épée dans ce royaume faite pour toi, elle est aux mains des fées et elle t'attend. Et il l'emmène très très loin dans le fond des montagnes du Pays de Galles et il l'emmène jusqu'à un lac. Et c'est là que la main de la Dame du Lac sort et donne l'épée. Et quand on le lit ce texte-là, on comprend beaucoup mieux la fin de l'histoire.
Pourquoi
il faut rendre l'épée au lac.
Ouais.
Elle est sortie des eaux, vous savez, les eaux, le mystère des eaux dans tous ces récits-là, les eaux sont la frontière de l'autre monde. Le miroir des eaux, le miroir d'Alice, on passe de l'autre côté. Et là, Excalibur, très clairement, c'est beaucoup plus indiqué dans cette version-là, Excalibur sort de ce monde dont l'eau forme la limite, la frontière, mais qui n'est pas du tout un monde aquatique ni marin. Hein. C'est juste un autre monde sous la surface de l'eau, et un jour, il va falloir qu'elle y revienne. Et il y a cette espèce de présence permanente de l'autre monde. Quand le roi Arthur est sur le point de perdre la vie et qu'il va bientôt être embarqué pour l'île d'Avalon, eh bien, ce n'est pas du tout au même endroit qu'il va rejeter l'épée. Peu importe. Toutes les eaux sont la même.
Sont juste la frontière entre les deux mondes.
Et l'autre monde est là derrière, sait ce qui se passe et qui attend.
Et alors, est-ce que on sait ce que veut dire Excalibur? Parce que c'est un nom qui sonne quand même, Excalibur.
Oui. Alors, Excalibur, elle s'appelle aussi Caledwur, elle s'appelle aussi Caliburnus. Vous voyez, il y a tout selon qu'on latinise ou pas le nom.
Oui,
le nom le plus évident, ça serait dur tranchante ou dur en taille, et ça serait un nom d'origine galloise. Mais Il y a des débats sur le nom d'Excalibur, et c'est très bien d'ailleurs qu'il y ait comme ça une part qui continue à échapper.
Ouais.
Vous voyez que tout ne s'explique pas jusqu'au bout.
Complètement. Alors, on va faire une pause à nouveau, Claudine Glot, et là, on va essayer, là je vous demanderai en revanche de revêtir vos habits d'historienne ou d'archéologue.
Oui.
pour que vous nous disiez s'il y a une réalité historique derrière tout cela.
Ah oui, grande affaire là.
Ouais. Oui. Est-ce qu'il y a eu un lieu où Camelot a existé? Est-ce qu'il en existe des ruines? Je ne parle même pas de la Table Ronde. J'ose même pas imaginer qu'il y a un lieu, peut-être, où il y a encore des vestiges de cette Table Ronde. Le roi Arthur, est-ce qu'il y a un fond de vérité? Tout cela, nous allons voir ça avec vous dans quelques minutes. Vous allez pouvoir évidemment questionner Claudine Glot. Si vous avez des commentaires, des réactions, vous nous appelez au 0826 300 300, comme Denis qui l'a fait et qui a laissé une question que je poserai à Claudine Glot, mon invitée, dans quelques instants sur Sud Radio. Et les SMS, vous envoyez vos SMS sur votre portable, vous tapez Sud, vous laissez un espace, vous rédigez votre texte et vous envoyez le tout au 71 200. À tout de suite pour continuer à suivre les traces du roi Arthur.
Sud Radio, samedi et dimanche 22h minuit, Louis Bénédit, les aventuriers de l'étrange.
Avec, en compagnie, devrais-je plutôt dire, du roi Arthur et de mon invité Claudine Glot, qui est auteur de nombreux livres, notamment un très joli livre de photos aux éditions Apogée qui s'intitule tout simplement Brocéliande. Vous êtes également la responsable du centre arthurien de la forêt de Brocéliande. Vous nous direz tout à l'heure en quoi consiste ce centre. Est-ce que vous y proposez, s'il y a un site internet sur lequel on peut retrouver comme ça tout un tas d'informations. Claudine Glot, cette fois-ci, vous avez la casquette d'archéologue, et commençons quand même par le centre de cette légende, de ce mythe, le roi Arthur. Après tout, à l'origine, c'était un clerc qui avait pour ordre d'écrire un livre qui raconte la vie des rois d'Angleterre. Alors, le roi Arthur, en un mot, commençant, a-t-il existé, oui ou non?
Franchement, plus j'étudie le sujet, moins je pense qu'il a existé. Il a existé effectivement des chefs de guerre qui ont dû, vers le 5e, 6e siècle, qui est une période très compliquée de l'histoire de l'Europe d'ailleurs et de l'Angleterre au passage. Une histoire non seulement compliquée parce que l'Empire romain s'est écroulé, il y a des invasions, les tribus reprennent leur indépendance, les alliances se défont, et qui est une période compliquée parce qu'il y a très peu d'écrits, il y a très peu de documents. Donc qu'il y ait à ce moment-là un ou plusieurs personnages qui inspirent, si vous voulez, plus tard le roi Arthur, c'est très très probable. Mais on a très peu de choses. De la période contemporaine, il n'est pas question du roi Arthur, ni même d'un personnage qui s'appelle Arthur, dans les rares documents qu'on a.
La période contemporaine du roi Arthur, il est situé vers quelle période à peu près?
5e, 6e siècle.
D'accord,
Et on ne commence à avoir des renseignements sur lui, des écrits sur lui, que 2 ou 3 siècles plus tard. Alors, vous imaginez déjà... Déjà à notre époque, où on a quand même une certaine conservation, une certaine organisation de la mémoire historique, ça serait compliqué de remonter la filière. Mais à cette époque-là, c'est quasiment mission impossible. Surtout que ce qu'on appelle l'histoire à cette période-là, ce sont des histoires. C'est-à-dire que l'histoire est extrêmement... c'est une fiction. On l'arrange pour servir un but. Vous me direz, ça n'a peut-être pas beaucoup changé, mais enfin bon.
C'est toujours le vainqueur qui écrit l'histoire.
L'histoire, c'est une autre affaire. Ou c'est celui qui veut vaincre qui range l'histoire.
Ouais,
voilà.
Ouais.
Mais toujours est-il qu'on a très très peu de choses. On a dans les premiers textes, on a un texte par exemple qui s'appelle le Gododin, qui est une relation des guerres et des faits d'une tribu celtique du sud de l'Écosse. Et là, on parle bien d'Arthur, mais il y a une mention de son nom, d'un certain Arthur. Et on ne sait toujours pas si dans ces textes-là, Arthur est le nom d'un personnage ou le titre, et si c'est bien le même personnage que ça désigne. C'est-à-dire qu'il y a là le croisement sur le personnage d'Arthur de plusieurs types de guerriers, à coup sûr. Il y a des choses qui sont vraies dans les faits relatés, il y en a d'autres dont on n'a jamais retrouvé de traces, comme des batailles ou des lieux. On ne sait pas de quoi l'auteur a pu vouloir parler. Et ce qui est très frappant, c'est de recroiser ces données historiques assez faible, avec les schémas de la mythologie celtique qui vous raconte justement l'histoire d'un roi à la naissance miraculeuse, à la jeunesse cachée et à l'accession au pouvoir par l'intermédiaire d'une épée. Mmh. Vous voyez, on se dit que là, la légende ou le mythe et l'histoire se sont croisés fortement et que la forme légendaire l'a quand même emportée sur la forme historique parce qu'elle était plus présente.
Oui, oui, oui.
Qu'il n'y ait rien du tout, non, je pense qu'il n'y a... D'abord parce que le cadre historique dans lequel évolue le roi Arthur, lui, il a existé. Les invasions, le départ des Romains, les troubles, les Saxons qui attaquent l'Angleterre, les révoltes internes à l'Angleterre, tout ça, ça a existé. Mais dire que ça a existé et que le roi Arthur a surgi au milieu de tout ça pour tout arranger, si vous voulez, il y a quelque chose moi qui me gêne beaucoup dans l'historicité du roi Arthur, c'est qu'on ait tellement de théories pour la prouver et qui ne sont pas toutes les mêmes. Mmh. Et là, ça fait réfléchir parce que Alexandre, Jules César, Charlemagne et les autres, on n'a pas besoin de 36 idées de dire c'était un Scythe, c'était un guerrier, c'était un cavalier Scythe des Bouches du Danube. Non, 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 c'était un chef celtique du nord de l'Écosse. Non, 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 c'était un officier romain d'origine celtique qui est revenu dans l'île. Vous voyez, on a plusieurs théories pour nous dire qui c'était. Et ça, c'est pas une preuve historique très flagrante, quoi.
Oui, oui, tout à fait. Mais alors, donc, partant de là, il n'y a plus grand chose qui relie l'histoire ou le fait historique et la légende, c'est-à-dire les chevaliers, Camelot, par exemple, tiens, le château.
Alors, Camelot est une création tardive, d'ailleurs, même dans le roman arthurien. Au début, le roi Arthur a différentes capitales, ce qui était d'ailleurs... on n'était pas dans des états centralisés, ça reflète un état. Parce que là, oui, l'habillage est historique, les conditions du récit sont historiques. Mmh. Arthur se comporte comme un roi du haut Moyen-Âge, c'est vrai. Même s'il n'en a pas été un historiquement parlant, il se comporte comme tel. Le roman arthurien, il s'écrit en costume moderne. Et le roi Arthur a plusieurs capitales qui vont du sud de Carlisle, Carduel, qui est au sud de l'Écosse, en passant par Winchester, par Londres et par Nantes. Mmh. C'est-à-dire qu'il a ainsi, et la capitale, chaque fois, est là où est le roi. Et c'est là qu'on voit qu'au départ, la table ronde est un meuble féerique. Est un meuble surnaturel. C'est-à-dire que la table ronde suit le roi. Cette énorme table est là où est le roi. Là où est le roi est le cœur du royaume, et là où est le roi est la table ronde. Et puis ce n'est que peu à peu, au fil des romans, que vient l'idée que le roi va créer le palais idéal, le lieu central, le cœur du royaume. Et là, on retrouve différentes théories de cultures diverses, d'ailleurs. Parce que Camelot, c'est tout aussi bien... Vous voyez comment est fait un mandala.
Oui, oui, oui,
tout à fait. C'est le cœur du mandala.
Oui.
Voilà. C'est le cœur du labyrinthe.
Oui.
Tout va y conduire, ça va être compliqué, mais c'est là qu'on va aboutir et c'est là qu'est la quintessence du sens du monde. Mais c'est aussi la Jérusalem céleste, un petit peu, par son aspect.
Mm-hmm.
Vous voyez, ouais, la beauté, oui, la richesse. Et c'est aussi quelque chose qui existe, là je reviens aussi au monde celtique, en Irlande, il y a quatre royaumes. Quatre royaumes qui ont une réalité territoriale. Et au centre, il y en a un cinquième, qui n'existe que par sa capitale, Tara, mais qui est plus fort que tous les autres. Vous voyez, ça, on retrouve cette idée du cœur à la fois géographique et mystique du royaume. Et Camelot, c'est ça, c'est exactement ça. Le roi a donné cette construction idéale qui centre son royaume et qui focalise à la fois le pouvoir temporel et le pouvoir spirituel.
Mmh.
Donc, on peut chercher des endroits qui ressemblent à Camelot, mais là, c'est chercher
le
Graal. C'est peut-être encore plus encore plus compliqué, d'ailleurs, plus gros d'ailleurs à trouver.
Oui, 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 c'est vrai, c'est vrai. Mais alors donc, point de vestige, rien qui puisse rattacher ce mythe à quelque chose de tangible finalement.
Et c'est plutôt autre. Alors là, c'est très curieux parce que ça fonctionne un petit peu à l'envers. C'est-à-dire que on a effectivement, on retrouve de temps en temps, on a retrouvé, je sais plus, 50 tombes du roi Arthur.
Oui,
à peu près autant de Merlin. Vous voyez, c'est là encore, ça veut quand même bien dire que dès le début du Moyen Âge, les premiers auteurs d'ailleurs qui parlent du roi Arthur avant que toute l'aventure ne se construise, ils vous disent que la tombe du roi Arthur n'existe nulle part. Donc ça veut dire qu'il n'est pas mort. Donc un roi qui ne meurt pas, c'est quand même déjà un personnage qui a une autre dimension qu'un simple chef.
Oui.
Donc là, il y a quelque chose de très qui devrait faire dresser l'oreille. Mais quand je vous disais très curieusement, l'implication politique, elle vient après. C'est-à-dire que ce personnage donc est suscité à partir de souvenirs historiques multiples, à partir de souvenirs mythiques ou légendaires très forts, à partir d'une grande inspiration littéraire et artistique. Et très vite, les rois, alors les vrais rois, et entre autres les vrais rois d'Angleterre, vont s'emparer du personnage d'Arthur. Et là, je fais un tout petit peu d'histoire.
Parce que politiquement, ça les sert, j'imagine.
Il faut, au Moyen-Âge, comme aujourd'hui d'ailleurs dans beaucoup de cultures, un grand ancêtre, c'est une chose admirable.
Oui.
Il faut avoir un fondateur.
Une légitimité.
Ça vous légitime. Or, le royaume d'Angleterre, vers le XIIe siècle, veut absolument se dresser face au royaume de France. Or, le royaume de France a un grand ancêtre qui est Charlemagne, empereur, roi, grand chrétien, grand conquérant, grand législateur, grand civilisateur, enfin les pains un peu rapides, mais bon.
Oui, personnage fondateur, vraiment.
Personnage extrêmement fondateur et personnage réel. Donc, les rois d'Angleterre, qui sont des rois normands, hein, c'est les Plantagenets, cherchent désespérément à avoir quelque chose à opposer à ça.
Oui,
ils vont trouver dans les récits de ceux de leurs sujets qui sont d'origine celtique, ils vont trouver ce personnage d'Arthur et ils vont s'en emparer. Mais il faut évidemment qu'ils prouvent que le personnage a existé. Et tout ce qu'on trouve comme théorie sur l'historicité du roi Arthur, eh bien, bien souvent, aujourd'hui encore, c'est très très souvent anglo-saxon. Et pour vous donner un exemple, dans les personnages, vous avez vu Braveheart.
Oui.
Le roi Édouard Ier
voulait
absolument démontrer à tout le monde qu'il était le descendant du roi Arthur. Et disait-il, je dois régner sur l'Écosse parce que mon ancêtre, le roi Arthur, régnait sur toute l'île de Bretagne, donc régnait sur l'Écosse aussi. Puisque je descends de lui, l'Écosse m'appartient. Vous voyez, justification politique et mythique par le roi Arthur de quelque chose qui n'était pas évident du tout. Henri VIII, vous savez, celui qui avait tant de femmes, là.
Oui.
Henri VIII, bon, on est beau déjà après le Moyen-Âge, eh bien Henri VIII, lui aussi, se pose en descendant du roi Arthur. Il est d'origine galloise, il dit, le roi Arthur, c'est notre ancêtre, à nous, les rois d'Angleterre, et encore plus à moi, parce que je suis gallois. Et quand il organise le camp du drap d'or, où il reçoit François Ier, eh bien, il fait donner un tournoi où il figure en roi Arthur.
Oui.
Et vous avez cette persistance. Vous savez, aujourd'hui encore, à toutes les générations de la Royal Navy, il y a des navires, des bâtiments qui s'appellent Sir Lancelot, Sir Galahad, Sir Perceval.
Eh oui.
Vous n'avez pas ça dans la marine française. Nous, on a le redoutable, le
le terrifiant, le terrible. Voilà. Je cherchais. Voilà. C'était le terrible. Oui, effectivement. Claudine Glot, une pause. On va se retrouver encore dans quelques instants parce que j'aimerais qu'on aborde quand même, on l'a effleuré très rapidement tout à l'heure, le côté symbolique quand même. Qu'est-ce qui fait, qu'est-ce qu'il y a d'universel, de fort, de puissant, de solide à l'intérieur de cette histoire qui fait qu'elle nous passionne alors qu'elle a été créée, écrite en 1136. Ce qui est quand même extraordinaire. Cette histoire perdure et vient jusqu'à nos jours et passionne toujours autant de monde. Pourquoi? Comment? Réponse sur Sud Radio dans Les Aventuriers de l'étrange dans quelques minutes.
Sud Radio. Samedi et dimanche, 22h minuit. Louis Bénédit, Les Aventuriers de l'étrange.
Et ce soir, l'héritage du roi Arthur et évidemment de ses chevaliers et de cette mythique table ronde avec mon invité Claudine Glot qui est responsable du centre arthurien de la forêt de Brocéliande et auteur de nombreux livres. Claudine Glot, qu'est-ce qui fait à votre avis, là nous sommes en 2007, 2007, j'y arrive, voilà, cette Histoire est né en 1136, enfin, au XIIe siècle pour faire large. Qu'est-ce qui fait qu'elle passionne encore autant de personnes aussi diverses?
Je crois d'abord
parce que c'est toutes les couches, hein, sociales.
Oui, exactement. C'est une histoire. Ah, mais justement, voilà déjà une des choses qu'on peut mettre en avant, c'est qu'elle est très unificatrice. Elle parle à tout le monde. Elle n'est, c'est pas un domaine réservé. C'est l'élitisme dans le bon sens.
Oui.
C'est l'élitisme, c'est-à-dire qu'on peut tous monter vers quelque chose. On a tous les mêmes possibilités face à cette histoire. Mmh. Ça n'est pas compliqué. Alors après, je pense qu'il y a d'abord, elle est très riche. Elle est très riche, c'est-à-dire qu'on peut s'identifier à plusieurs niveaux. Un homme, une femme, un enfant vont trouver l'image de ce qu'ils souhaitent être. On peut avoir envie d'être la fée ou le chevalier, et même les deux tour à tour. Je crois que ça fait quand même partie. Oui. Elle est à la fois assez différente pour vous donner envie d'y rentrer voir, et assez identitaire pour que vous y reconnaissiez.
Mmh, ouais.
Ça, je crois que c'est un équilibre qui est très particulier à cette légende. Tout à l'heure, je parlais des autres mythologies qu'on trouve un peu moins, il me semble, dans les grandes mythologies. Alors, ce qu'il y a, bon, il y a cette familiarité avec l'autre monde et qui nous fait. Aujourd'hui, on peut avoir le sentiment que le monde est très fini, très bloqué autour de nous. Et là, cette espèce de possibilité de passer de l'autre côté du voile est absolument fascinante. Et dans la légende arthurienne, elle n'est pas très compliquée. On sent qu'on y aborde assez facilement cet autre monde et ça fait partie de l'excitation de l'aventure arthurienne.
Mmh, ouais. Là, vous nous donnez des raisons, je dirais, de surface, quoi, de premier degré, en quelque sorte.
C'est un premier degré, mais c'est déjà un premier degré qui rentre un petit peu dans le mystère.
Oui.
Il y a aussi un modèle, comment on veut dire, de comportement. Il y a un modèle de comportement de valeur dans l'idéologie même de la table ronde. Cette égalité par le haut, qui est ce qu'on peut quand même ce qu'on peut souhaiter de mieux.
Oui.
On entre à la table ronde par ses valeurs, par ses propres qualités,
par
sa vertu, et ce sont des vertus qu'on met au service de tous.
Oui.
Mais elle ne se fonde pas dans le groupe. C'est-à-dire qu'il y a une articulation de l'individu et du groupe qui est un bel équilibre, là, je trouve. C'est-à-dire qu'on apporte au groupe, on prend du groupe et on reste soi-même.
Mmh. C'est très, très universel, finalement.
C'est très universel et c'est très optimiste aussi, quand on y pense.
Mmh.
C'est très optimiste. Il y a l'agressivité est domestiquée. Toutes les pulsions sont mises au service de quelque chose, mais s'expriment quand même. Ce qui est aussi hautement civilisé.
Oui.
Il y a bien sûr l'idée aussi de la quête, l'idée de l'aventure. L'idée que chaque jour est une aventure à vivre et ce que je disais tout à l'heure, on ne refuse rien. On prend les choses qui se présentent et on traite avec. Et il n'y a aucun déshonneur à ne pas atterrir. Ce n'est pas cette espèce de frénésie, j'ai un but à atteindre, j'ai... Non. La vie en elle-même, chaque geste que je fais, chaque moment que je vis compte. Il est important, même si moi je ne sais pas bien pourquoi. Il faut avancer, on marche vers quelque chose, même quand on ne sait pas encore bien pourquoi, vers quoi, mm-hmm. Il est important de continuer à tenir le cap.
Oui.
Il y avait une très très jolie formule, les chevaliers devaient en toute chose tenir droite voie. Et ça, je crois que tenir droite voie, la droite voie, c'est celle qu'on s'est choisie, qu'on s'impose. On n'a plus de table ronde, mais on peut être à soi-même sa table ronde, si vous voulez.
Oui, c'est ça, tout à fait. Oui.
Je crois que ça fait partie de ce qu'on peut se prendre comme repère dans le...
Comme chemin de vie.
Comme chemin de vie dans l'histoire des chevaliers. Mais évidemment, à pratiquer, comment vous dire, dans son assise personnelle, un petit peu.
Oui,
en interne.
Mmh.
Il y a aussi l'idée que l'histoire n'est jamais finie, qu'il y a eu cet âge d'or et qu'il peut revenir. Ça peut être aussi très très moteur, ça,
oui.
De se dire que vous savez pendant pas mal de siècles les Bretons y ont cru à cette histoire, mais y ont cru pas comme à une légende, comme à une vérité historique. Ça s'appelait l'espoir breton. C'était quand ça ira trop mal, le roi Arthur viendra nous tirer d'affaire.
Oui.
Et là, on peut toujours se dire, quand ça va trop mal, les idées que véhicule l'histoire du roi Arthur peuvent me tirer d'affaire.
Mmh. Ou le roi Arthur lui-même.
Ou le roi Arthur, pourquoi pas.
Vous l'enterrez trop vite, là, quand même.
Non, il faut pas être minimaliste, vous avez raison. Et puis, il y a toujours, évidemment, la promesse du Graal, quoi. L'idée de... On nous dit que le Graal, bon, dans l'histoire, le Graal, quand Galahad découvre, a découvert ce que c'était que le Graal, il en meurt de joie et le Graal repart dans les cieux. Mais on sait bien que l'idée du Graal est toujours en nous. On sait bien qu'il y a toujours cette merveille que sans doute nous portons, sans doute nous recelons et que nous trouverons peut-être un jour. Mmh. Et qu'il faut continuer à la chercher. Ça fait aussi partie du mystère de la table ronde et de la promesse de la table ronde. Mmh. Et puis après, il y a un autre plan sur lequel je crois aujourd'hui il est vraiment très important de revenir, c'est qu'on parle beaucoup aussi du symbolisme cosmique de la table ronde. Les textes le disent, ils vous disent la table ronde, elle est ronde comme le monde et elle tournoie comme lui. Au XIIe siècle, on vous parle de ça.
Oui.
Ce qui déjà donne une idée quand même assez belle de l'imagination, de l'image que les auteurs se faisaient du monde. Et,
vous voulez dire qu'il y a un côté ésotérique dans
Il y a un côté très fortement symbolique.
Oui.
Ésotérique peut-être et peut-être pas. Mmh, on ne sait pas très bien. Et là, il y a des choses qui nous échapperont longtemps. Jusqu'à quel point les auteurs voulaient cacher un message dans les romans arthuriens, ou à quel point s'ils voulaient simplement donner un sens plus profond, mais qu'on pouvait atteindre par la lecture, l'exercice de la réflexion ou une certaine qualité de méditation. Vous voyez, est-ce que c'est un vrai ésotérisme? Pas forcément. Mais beaucoup l'interprètent comme ça et ça ne veut pas dire qu'ils ont tort.
Mmh. Voyez, mais en tout cas, ce sont autant de pistes à explorer en lisant ces
romans. Et il y a encore une dernière chose. On a parlé de Merlin et puis à un moment on a dit on n'en parle plus beaucoup. C'est vrai, il n'est plus là. Mais Merlin a quand même une vertu parmi d'autres et aujourd'hui on a besoin de ça. Merlin, c'est vraiment le chaînon manquant, le lien perdu entre l'homme et la nature.
Tout à fait.
Merlin sait prendre toutes les formes du vivant, pas seulement de l'humain, du vivant. Ça veut dire que Merlin, c'est celui qui parle aux animaux. Merlin, c'est celui qui vit la vie de la forêt. Et si on retrouvait un peu de ce sens-là, un peu de ce discours-là, ou si on en avait perdu un peu moins, on s'épargnerait quand même pas mal de choses assez tristes qui sont en train de nous arriver.
Oui. Merlin a tout à fait raison, en tout cas.
Merlin a raison. Merlin avait raison. Le problème des prophètes, c'est qu'on ne les écoute pas.
Eh oui. Mais enfin, bon, on finit par leur tendre l'oreille un petit peu quand même.
Oui.
Quand même. Vous avez cité Merlin et la forêt de Brocéliande. Restons-y. Il y a un SMS que nous a envoyé un auditeur ou une auditrice qui dit « Je suis allé à Brocéliande en 1998 jusqu'à la fontaine de Jouvence. Nous avons pris une photo de la fontaine et au développement, une forme de dimension humaine est apparue un peu sur la photo. » Vous allez nous parler de la forêt de Brocéliande. Vous nous en avez dressé un portrait au début de cette émission, mais c'est quand même un lieu central dans le mythe arthurien, évidemment.
Ah oui. La forêt est un lieu absolument nécessaire parce que je vous parlais de l'accès à l'autre monde, je vous parlais de la chance, de l'aventure. Tout se passe dans la forêt. En fait, les lieux civilisés, disons les lieux bâtis, les lieux de vie des hommes, ne sont que des temps de repos entre deux aventures.
Oui.
Mais le chevalier doit partir et son intronisation... Évidemment, elle s'est faite à la table ronde, mais sa vraie intronisation, sa valeur chevaleresque va naître du passage dans la forêt. Et la forêt teste l'homme. Mmh. La forêt teste la vertu du chevalier. Il y a un très beau récit, assez bref, où on voit deux chevaliers successivement, Kay et Gauvin, qui partent pour la même aventure dans la forêt. Et il y en a un que la forêt, Kay, est littéralement rejeté par la forêt. C'est-à-dire que tout se passe mal pour lui et la forêt se ferme pour lui. Et il ne vivra pas l'aventure. Et c'est disqualifiant. Et Gauvin va arriver derrière, et là, même les animaux sauvages de la forêt vont se presser sur son passage pour le voir passer, parce qu'il est le chevalier qui est élu pour cette aventure. Mmh. Et la forêt, c'est le lieu, c'est à la fois le lieu de l'attrait extrême et le lieu de la terreur extrême. Et on a besoin des deux pour avancer.
Oui.
Et Brocéliande est le symbole même de toutes ces forêts arthuriennes. C'est la forêt des forêts.
On peut s'y perdre dans cette forêt ?
On peut toujours, oui. Même quand on la connaît bien,
Ça vous est arrivé, visiblement.
Oui, oui, c'est très étonnant. Mais parce qu'on oublie toujours que les forêts, surtout sous nos latitudes, sont des forêts de feuillus, en général.
Oui.
Donc des êtres très vivants qui changent de forme très rapidement, parfois et sans arrêt. Et en quelques jours, le même endroit n'a plus le même visage. Et à vous de le reconnaître. Et quand ce sont des petits chemins, des endroits un peu creux, un peu enfoncés, un peu, vous pouvez très rapidement ne plus les retrouver, ne plus les reconnaître. Les chemins se ferment, les ruisseaux se mettent à couler ou cessent de couler, et vous perdez vos repères. Et Brocéliande, en plus, je vous dis, Brocéliande, c'est un lieu très très scientifiquement, dirons-nous, et à un sous-sol riche en fer. Ce qui fait que tous ces outils dont on s'entoure pour se retrouver comme des boussoles, eh bien là-bas, ils fonctionnent pas.
Excellent.
Et ça, c'est très bien.
Excellent.
Ça vous apprend à regarder le soleil au lieu de regarder votre boussole, et c'est pas plus mal.
Oui.
Non, alors, oui, Brocéliande, c'est vrai que Brocéliande a en plus un cœur particulièrement important qui est la fontaine de Barenton. Parce que souvent.
La fontaine de Barenton, c'est ce que le SMS appelle la fontaine de Jouvence.
Non,
c'est
il y a les deux.
Très bien.
Il y a les deux. Il y a la fontaine de Jouvence qui est près du tombeau de Merlin. Donc, voyez le côté je meurs et je renais.
Oui.
Symbolique du cycle, oui. Là, de la fontaine de Jouvence. Et dans une autre, c'est la forêt grande. Hein, le tour de la forêt doit faire un peu plus de 60 km.
Hein, quand même.
On peut y passer du temps. On peut s'y promener longuement avant d'avoir tout exploré. Il faut faire attention à une chose, c'est que la forêt de Brocéliande, c'est un petit peu focalisé sur des lieux qui, plus que d'autres, la fontaine de Jouvence, fontaine de Barenton, Val sans retour, c'est vrai que ces lieux-là ont une charge de merveilleux et une réputation extraordinaire. Mais il ne faut pas oublier qu'au temps des enchantements de Bretagne, puisque c'est le terme employé dans les romans arthuriens, au temps des enchantements de Bretagne, c'est la forêt entière qui était le lieu magique. C'est-à-dire qu'il suffisait d'entrer dans la forêt pour que tout puisse arriver. Donc ça veut dire qu'on peut chercher effectivement à aller sur ces lieux un petit peu célèbres ou connus, mais que à tout moment l'aventure ou
tout peut basculer.
Tout peut basculer et le ressenti superbe et merveilleux de la forêt, vous pouvez l'avoir à n'importe quel moment. À Brocéliande.
Oui, tout à fait.
Vous n'êtes pas obligé de chercher le lieu estampillé. Ce n'est pas un lieu historique, justement. Vous n'êtes pas. Voilà, là, vous êtes à Versailles. Vous dites, oui, Louis XIV est couché là. Très bien, je vois où c'est. Là, personne, on vous dit le tombeau de Merlin. Oui, pourquoi pas. C'est ici et nulle part. Ça, c'est les hommes qui disent que c'est le tombeau de Merlin. Tout ce qu'on sait, c'est que Merlin est dans la forêt. Point.
Et alors, c'est quoi cette fontaine de Jouvence?
Alors, la fontaine de Jouvence. En fait, il y a une explication qui est donnée sur place qui est pas très convaincante. On dit que les.
C'est pas ce que vous trouvez de mieux dans la forêt déjà. Hein,
non,
c'est on le sent quand même.
C'est pas ce que je trouve de mieux parce que je trouve que d'abord elle est pas d'une beauté renversante.
Mm-hmm.
Et puis surtout parce que cette explication rationalise un thème qui est un thème très beau en fait. C'est ce dont on parlait tout à l'heure. C'est pas parce qu'on se. Cette fontaine n'est pas une fontaine où on se trempe ou où on ressort jeune, ce qui serait quand même
une beaucoup plus belle histoire.
On vous dit simplement on baptisait là les enfants et. Quand on les baptisait, on les baptisait tous à la même date, et ceux qui naissaient juste après la date du baptême, on les baptisait que l'année suivante, donc ils gagnaient un an puisqu'on les inscrivait. Ouais, c'est un peu miteux, je trouve, comme vous voyez, comme alors que le vrai sens de ça, c'est que quand vous franchissez la frontière de l'eau dans le monde des légendes, vous entrez dans le monde des faits, et là le temps ne s'écoule plus. Donc vous êtes dans une jeunesse éternelle. Et c'est ça la jouvence de l'eau.
Oui.
C'est ça. Et ce sont toutes ces histoires du temps qui s'arrête. Vous savez, le héros passe chez les fées, brise la frontière de l'eau, soit qu'il y tombe, soit qu'il saute par-dessus. Et il passe du temps, il croit passer un an, deux ans. Et quand il veut revenir chez lui, si par hasard il arrive à y revenir, il découvre que ce sont des siècles qui se sont écoulés. Et il ne doit plus toucher le sol de la terre des hommes parce que son... Tant chez les fées, l'a modifié. Il n'est plus tout à fait un homme. Mmh. Il n'est plus tout à fait du monde réel.
Oui.
Et ça se fait à travers la surface de l'eau, à travers l'eau. Et je trouve que ça serait beaucoup plus beau de dire ça autour du thème de la fontaine de Jouvence que cette histoire de baptême, loupé, quoi. Hein. Mais non, il y a. Ceci dit, pour la personne qui a laissé un message, c'est vrai que c'est une chose qui arrive. De temps en temps, sur les photos prises à Brocéliande, l'apparition d'un visage.
Oui.
Et quelquefois, c'est très très troublant parce que ce sont des photos prises à des moments, comment dire, non signifiants. C'est-à-dire, c'est en pleine journée, c'est ni midi, parce que midi est un moment un petit peu comme minuit, un moment de bascule. Mm-hmm, non, c'est pris vraiment une photo courante, quoi.
Oui,
par des gens, peut-être comme la personne qui a laissé le message, par des gens qui n'étaient pas à ce moment-là dans un état spécial de réceptivité ou de. Vous voyez, qui n'étaient pas ni dans une transe, ni dans une vision.
Oui,
ils prenaient leurs photos.
Oui, voilà. Oui.
Effectivement, j'en ai. C'est pas très très fréquent, mais ça arrive. Ça arrive. Non, pour revenir à nos fontaines magiques de Brocéliande, la fontaine la plus extraordinaire, c'est Barenton. Barenton qui n'est pas non plus, si vous voulez, à l'aspect, n'est pas bouleversant, mais ça c'est aussi une des leçons de Brocéliande. C'est qu'il faut savoir aller au-delà, il ne faut pas se laisser abuser par notre civilisation d'effets spéciaux. Quelquefois, la charge magique ou la charge ésotérique ou spirituelle d'un lieu est inversement proportionnelle à son aspect. Et Barenton, c'est le cas. C'est un lieu secret. Il ne faut pas l'approcher en se disant « c'est la fontaine qui bouge, je veux voir des chevaliers sauter partout ». Non, il faut se laisser pénétrer de son intériorité. Mais c'est une fontaine qui raconte une très belle histoire. Bon, je vous parlais de Yvain, le chevalier au lion.
Oui.
Ça se passe là. Mais que nous dit la fontaine? Que nous dit cette histoire? Elle nous donne déjà une leçon d'équilibre. La fontaine appartient à une fée, l'Odine de Landuc, dame de la fontaine.
Mm-hmm.
Mais la fée doit avoir, et la fontaine, la fée doit avoir un époux, la fontaine doit avoir un gardien. C'est-à-dire que le monde n'est à l'équilibre que si sur cette fontaine, il y a accordé un principe masculin et un principe féminin ensemble et à égalité. C'est quand même assez joli comme...
C'est
idée.
Très joli, oui.
Et la fontaine en elle-même est une espèce de totalité du monde. C'est-à-dire que cette fontaine, on vous dit, elle boue tout en étant froide. Ça, c'est la tradition. Et aujourd'hui encore, quand vous allez à Barenton, vous voyez des espèces de bulles qui sortent du fond de la fontaine et qui parfois sont très, très abondantes et lui donnent l'aspect d'une eau qui boue, effectivement. Or, elle est fraîche. Et le sens de cette ébullition, bien sûr, il y a un prodige. Mais le prodige, on pourrait l'expliquer. Ce qui est plus beau, c'est la symbolique. Parce que je vous disais la totalité des éléments. La fontaine est dans la terre. Elle sort de la terre. Et c'est de l'eau. Et elle est surplombée par l'air.
Oui.
Donc on a trois éléments. Et le quatrième élément, les bulles qui sont dans la fontaine ne sont pas de l'air. Elles sont assimilées à du feu. Elles font bouillir la fontaine.
Mm-hmm.
Donc vous avez en cette seule, comme le dragon qui représente les quatre éléments, la fontaine représente les quatre éléments. Donc c'est beaucoup plus que la gestion de cette fontaine par un couple équilibre du monde. Là, c'est la totalité du monde qui se trouve en jeu.
Mm-hmm.
Si la fontaine est dans les mains qui conviennent. Et c'est pour ça que Barenton est un lieu très très important. Et c'est pour ça aussi d'ailleurs que les romans mettent tous l'accent, les romans arthuriens du Moyen-Âge, qui se passent à Brocéliande, font tous de Barenton le cœur de cette action. Et c'est aussi pour nous, et ça c'est très important, ce qui légitime la forêt actuelle qui s'appelle forêt de Pimpon, c'est ce qui nous permet de dire c'est bien la Brocéliande des romans, c'est bien cette forêt-là qui a inspiré les romanciers. Parce que dès le XIIe siècle, on y revient toujours à ce XIIe siècle, dès le XIIe siècle, on vous dit, voilà, la forêt de Brocéliande, c'est une grande forêt qui est en Petite-Bretagne. Bon, jusque-là, ça va.
Oui.
Mais c'est pas la seule.
Mm-hmm.
C'est une forêt qui porte un nom proche de Brocéliande, que ce soit Bréchilien ou Bréquilien ou Brocélian.
Oui.
Mais il y a des lieux dits qui ont ce nom-là aussi. Plus ou moins forestés, mm-hmm. mais ils existent.
D'accord. Oui.
Mais la particularité de la forêt, c'est qu'au milieu, il y a cette fontaine. Et que cette fontaine elle-même a sa particularité qui est de bouillir tout en étant froide. Et là, quand vous avez la forêt qui est au cœur de la Bretagne, qui est grande, qui s'appelle Brocéliande, et qui renferme une fontaine qui s'appelle Barenton et qui boue tout en étant froide, là, vous pouvez vous dire, oui, c'est cette forêt-là qui a inspiré les romans.
Ouais. Très, très joli. Et vous le racontez, en plus, merveilleusement bien, si je puis me permettre.
Merci beaucoup. Mais oui, permettez-vous.
Je me permets donc. Une pause, Claudine Glouille. On se retrouve dans quelques instants. Vous pouvez nous envoyer vos SMS, évidemment, avec grand plaisir, comme Laurascal, qui est un auditeur... fidèle qui nous envoie souvent des petits messages et qui nous dit bonsoir, suivre le soleil plutôt que la boussole, quel beau message et quelle belle émission. Merci infiniment, signé Le Rascal. Merci à vous en tout cas de nous écouter tous les samedis et les dimanches. Vous pouvez nous envoyer vos réactions, vos merci aussi, ça fait plaisir. Comme ça on se dit bah tiens, on bosse pas pour rien finalement. Donc continuez, sud. Sur votre portable, vous tapez sud, vous laissez un espace, vous écrivez votre texte, votre message, votre commentaire, votre question, votre expérience, et vous l'envoyez au 71-200. À tout de suite.
Sud Radio. Samedi et dimanche, 22h minuit. Louis Benedi, les aventuriers de l'étrange.
Le roi Arthur et les chevaliers de la table ronde et toute cette légende mythique, nous baignons dedans grâce à la gentillesse et à la présence de mon invité Claudine Glot, qui est responsable du centre arthurien de la forêt de Brocéliande et auteur de nombreux livres sur le mythe arthurien. Alors Pierrette nous a envoyé un SMS, non, nous a appelé pour nous demander une précision. Claudine Glot, rappelez l'édition de ce livre dont j'ai parlé tout à l'heure, qui s'intitule Brocéliande, avec des photos de la forêt. C'est aux éditions Apogée, ma chère Pierrette qui nous écoutait, éditions Apogée, et l'auteur, sont deux auteurs, pour les photos Hervé Glot, G-L-O-T, et les textes Claudine Glot, et le titre du livre Brocéliande. Un autre livre que vous pourriez nous recommander, Claudine ?
Sur le roi Arthur ou sur la forêt de Brocéliande ?
Les deux, mon colonel.
Ah, les deux, mon colonel. Alors, sur le roi Arthur, je vais vous en recommander deux. Oui. Un Gallimard découverte par une dame qui s'appelle Anne Vertelot et qui est extrêmement brillante sur le roi Arthur.
Anne Vertelot.
Anne Berthelot.
Ah, Berthelot, pardon. Oui,
Berthelot, oui, comme Marcelin.
Oui,
Berthelot.
Oui,
et puis, bah, je vais pas être modeste, je vais vous recommander aussi un livre que j'ai écrit.
J'allais vous le demander,
voilà,
quand même, oui.
Aux éditions Ouest France, qui s'appelle Le Grand Livre du Roi Arthur. Je dis bien que le titre est le choix de l'éditeur. C'est un livre que j'ai écrit après avoir accueilli des gens en forêt de Brocéliande pendant 15 ans. Et j'ai essayé de faire ce livre en fonction justement des questions qu'ils me posaient.
Oui.
D'expliquer à la fois de l'histoire, de la littérature, de la légende, et aussi expliquer jusqu'à nos jours, parce que on disait que la légende revient, et c'est vrai que par exemple au 19e siècle, elle est revenue avec énormément de force et avec toujours une nouvelle forme. Là, c'était beaucoup une forme plastique, beaucoup de tableaux. Vous savez, ces tableaux qu'on voit beaucoup maintenant,
oui,
les tableaux pré-raphaélites, avec ces femmes absolument merveilleusement belles.
Féerique.
Et féerique, et des chevelures dont on n'ose même pas rêver. Et ce qu'il faut voir aussi, et j'ai essayé de mettre ça un petit peu en avant, toujours dans le sens la légende ne meurt pas, ce sont des réinscriptions très récentes, et une très récente, relativement récente, enfin moderne, moi qui m'a quand même toujours beaucoup frappé, c'est l'histoire du président Kennedy.
C'est-à-dire
que quand John Kennedy cherche à devenir président des États-Unis,
oui,
il y a une comédie musicale à Broadway qui s'appelle Camelot, qui est un grand succès, et un petit peu en matière de plaisanterie, l'entourage de Kennedy commence à rythmer ses entrées en meeting avec cette musique, et il se fait une espèce de d'identification de ce jeune président qui est beau, qui est brillant, avec sa superbe femme, ces gens qui promettent plus de justice, plus d'égalité, plus de droits.
Faut
se rappeler quand même ce que c'était les droits civiques pour les Noirs et autres. Hein. C'était dans les années 60 aux États-Unis. On assimile la période Kennedy à la période de Camelot, à l'apogée du roi Arthur.
Du roi Arthur.
Et ça va assez loin quand Kennedy est assassiné. La légende nous dit le roi Arthur dort quelque part, il reviendra. Et pendant plus de 20 ans, il y a eu une rumeur qui a couru aux États-Unis disant « mais Kennedy n'est pas mort ». En fait, il est dans les sous-sols, dans une chambre stérile de l'hôpital de Dallas. On lui a branché plein de tuyaux, on le maintient en vie jusqu'au jour où on saura le soigner. Et donc déjà, c'est assez étonnant. Mmh. Et il y a 5-6 ans, quand John Kennedy Jr., John, le petit garçon, la Darlington, s'est tué en avion, eh bien, la presse américaine a titré à nouveau en disant « c'est vraiment la fin de Camelot ».
Ah, joli.
Vous voyez, il y a comme ça des signes assez surprenants, quoi, de la vivacité de cette légende.
Il y a un SMS qui est arrivé signé Eric qui dit qu'en est-il du combat Merlin Morgan? C'est vrai qu'on l'a occulté, bon, on pouvait pas tout raconter
non
plus. On
pouvait pas tout raconter. Morgan mérite elle aussi, oui, quasiment. Alors le combat, Morgan est la première élève de Merlin.
Oui.
Et il y a un certain nombre de romans qui vous expliquent que Morgan et Merlin c'était un couple.
Mm-hmm.
C'était un couple, mais Morgan forme aussi un couple avec son frère. C'est-à-dire que c'est la seule qui est de même niveau en puissance, en pouvoir. Elle est parce que c'est une souveraine et une magicienne, Morgane, les deux. Elle peut appartenir, elle est princesse, elle a le sens du pouvoir, mais elle veut aussi ce pouvoir encore plus suprême qu'est la magie. Et elle est en fait détrônée de la vie de Merlin, virée de la vie de Merlin par l'amour qu'il a pour Viviane.
Mmh.
Et là, tout pourrait encore se stabiliser comme ça. Morgane est une personne qui est toujours présentée dans les romans comme menant sa vie à part, plus fascinée par le savoir, par le pouvoir que donne le savoir,
oui,
que par le pouvoir direct. Mais là aussi, il y a cette espèce de grand processus de christianisation et de lissage des personnages du roman arthurien que les auteurs vont mener tout le long du Moyen-Âge. En fait, plus un texte est ancien, plus il va être proche de son origine, plus les personnages vont être vrais. Plus on avance dans le Moyen-Âge, plus ils sont un petit peu, vous voyez, coiffés un petit peu.
Ils rentrent
dans un... Comment
dans
dire,
un moule, dans un chemin,
voilà,
dans un
religieusement correct, quoi. Et alors, Viviane échappe à ça. Viviane, ça va, parce que Viviane, on vous dit, d'abord, elle s'efforce de rester chaste, toujours cette grande qualité, alors que Morgane est une femme luxurieuse.
Ouais.
Et les auteurs vont s'acharner sur Morgane. Et celle qui était une fée et une princesse va devenir une sorcière. Et l'outrage définitif, c'est que d'abord, elle va être complètement supplantée par Viviane auprès de Merlin, et que Viviane, par rapport à cette vue chrétienne des personnages, Viviane se conduit bien puisqu'elle enferme Merlin.
Mmh.
Elle retire du monde le fils du diable. Donc tout est bien pour elle. Elle va rester jeune et belle. Et Morgane, elle, qui n'a pas ses vertus de chasteté et qui est une vraie magicienne, eh bien Morgane, on vous explique que non seulement ce n'est qu'une sorcière, mais qu'à force de travailler comme ça dans les matières occultes, eh bien, sa beauté va se flétrir. C'est-à-dire qu'on ne lui laisse rien, rien. Mais en fait, au départ, c'est elle qui est sur le même niveau que Merlin.
Oui.
Et en fait, la bagarre est plus entre Arthur et Morgan
qu'entre Merlin et Morgan.
Voilà. La bataille entre Merlin et Morgan, on la voit surtout dans le film Excalibur, où Bourman, pour des raisons de simplification d'un scénario extrêmement complexe, a fondu en un seul personnage, Viviane et Morgan.
Oui, d'accord. Alors, une dernière chose, puisque nous allons devoir nous quitter d'ici 4 minutes, ma chère Claudine Glo, le centre arthurien de la forêt de Brocéliande, que vous présidez, a-t-il un site internet où l'on puisse, comme ça, retrouver toute une bibliographie, des références?
Alors, c'est www.centre-arthurien-brocéliande sans accent, donc
.com. D'accord.
Voilà. Alors, donc ce sont des tirets, hein, les petits traits d'union à la française.
Voilà,
hein,
des traits d'union, voilà. Alors, www.centre-arthurien-brocéliande.
.com.
Très bien. Comme ça, on peut avoir toute une bibliographie, tout en sachant bien que il n'existe pas un roman unique qui retrace toute l'histoire du roi Arthur et des chevaliers de la Table Ronde.
Non, ou alors quand il y a maintenant des auteurs modernes qui ont retaillé pour faire des romans qui se tiennent à peu près. Bon, il y a par exemple un livre qui vient de sortir qui est une réédition d'un texte d'un auteur qui s'appelle Jacques Boulanger et qui vient
avec de très belles illustrations d'ailleurs.
Didier Graffé, magnifique.
Oui, magnifique. C'est un coffret avec deux volumes. Très très beau.
Voilà, alors pour vous donner une idée, justement, on expose des originaux de Didier Graffé, entre autres choses, au centre arthurien cette été. Voilà.
Et c'est aux éditions Grund, d'ailleurs.
Grund, voilà, et à un prix, je ne le dis pas, mais extrêmement modique.
Vous pouvez le dire, parce que là, j'ai le livre sous les yeux, les deux tomes sous les yeux, et je n'ai pas le prix.
Et c'est 39 euros.
Ah oui.
Les deux volumes sont
Ah,
coffrets.
C'est pas cher, c'est un coffret magnifique
moins
avec
de 40
deux gros
euros.
Bouquins. Oui, 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 ils sont superbes. Et puis les illustrations sont magnifiques. Hein.
Et alors là, l'auteur qui s'appelle Boulanger, bon, qui est mort déjà depuis quelques temps, lui, a retaillé dans la matière arthurienne de quoi faire un roman qui se tient, quoi, un roman dans le goût d'aujourd'hui. Mais c'est vrai que c'est toujours un crève-cœur de faire ça. Parce qu'on laisse de tellement belles aventures, des personnages tellement fascinants de côté que, voilà, on a, après on a envie d'y revenir et d'en lire d'autres et d'en trouver, de trouver d'autres choses. Et puis il y a énormément de choses en ce moment, bandes dessinées, entre autres en Bretagne, qui se font sur, sur ces personnages-là. Non, ça permet beaucoup de choses, le roman arthurien, hein, entre, entre la cesse du théâtre de Julien Gracq et puis Kaamelott, hein, il y a du champ. Hein.
Ah, il fallait citer Kaamelott, oui.
Ah bah oui, quand même.
Oui, sur M6, évidemment.
Ah, oui.
C'est incontournable.
Absolument.
Bon, un peu loin de la vérité, mais incontournable quand même.
Mais bonne connaissance, hein, en fait.
Ah oui, vous trouvez quand même.
Oh, oui, je suis sûre qu'ils ont... Oui, pour traiter les personnages, pour...
Oui.
Si vous voulez, la vraie bonne dérision, il faut qu'elle connaisse son sujet.
Oui, et là, manifestement, ils connaissent bien le sujet.
Ah
quand
oui,
même.
Ils connaissent bien le sujet.
Les scénaristes connaissent bien. Bon, on leur accorde un satisfait kit, alors.
Oui, je pense qu'on peut.
Très bien. Merci beaucoup, en tout cas, Claudine Glo. J'ai passé vraiment une émission avec mon réalisateur. On se le disait pendant une pause de publicité. On n'a pas vu le temps passer. Donc,
écoutez, merci beaucoup. J'espérais ça, mais tant mieux si c'est vrai.
Si, tout à fait. Ça a été un vrai, vrai plaisir. À très bientôt, en tout cas.
À bientôt. Au revoir.
Et bonne fin de soirée. Au revoir.
Sud Radio. Samedi et dimanche, 22h minuit, Louis Benedi, les aventuriers de l'étrange.
Les références, je vous rappelle toutes les références qui ont été citées de livres dans cette émission des Aventuriers de l'étrange sur Sud Radio. Pour commencer, les livres de Claudine Glo qui était mon invitée. Alors, aux éditions Ouest France, le grand livre du roi Arthur. Donc le grand livre du roi Arthur aux éditions Ouest France. Un autre livre de photos avec son époux Hervé Glo. Donc ça s'appelle Brocéliande. C'est aux éditions Apogée. Aux éditions Apogée. Et puis si vous voulez aller plus loin, en savoir un petit peu plus, un site internet du centre arthurien de la forêt de Brocéliande. Donc c'est www. Comme d'habitude, vous tapez centre-arthurien-brocéliande.com et là vous aurez toute la bibliographie nécessaire. Donc je vous rappelle le titre de ce site internet, centre-arthurien-brocéliande.com. Merci à Mathieu qui signe la réalisation de cette émission, Morad qui était au standard, Pierre Massias qui m'épaule pour construire cette émission. Je vous donne rendez-vous bien entendu samedi et dimanche prochain de 22h jusqu'à minuit. D'ici là, passez une excellente semaine sur Sud Radio.